Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 15 morts, plus de 40 blessés. Bilan de cet attentat terroriste et antisémite hier sur une plage prisée de Sydney en Australie. Un Français figure parmi les victimes originaires du Bourgeux en banlieue parisienne. Ses proches sont sous le choc. La ministre de l'Agriculture attendue dans le sud-ouest où les blocages se poursuivent ce matin contre la gestion du gouvernement dans la crise de la dermatose nodulaire. Et Mason Greenwood, sauveur d'un OM à la peine hier soir en Ligue 1, tombeur 1-0 de Monaco.
Les mois très vifs au lendemain de cette fusillade qui a fait donc 15 morts en Australie.
Et parmi eux, un Français, Dan El-Kayam, 27 ans, installé à Sydney depuis un an. Cet ingénieur de confession juive était originaire du Bourget, en Seine-Saint-Denis. Un homme à mille que ses proches décrivent comme un passionné.
Des milliers de kilomètres les séparaient ces dernières années, mais Michael, ami d'enfance de Dan, suivait de près ses aventures en Asie, en Australie, lorsqu'il a appris son décès.
Moi, pour moi, j'étais persuadé que c'était pas vrai. Je me disais, c'est pas possible, ça peut pas lui arriver à lui.
Il relit en boucle les messages de Dan, des plus récents, il y a quelques semaines, aux plus anciens. De nombreux souvenirs heureux refont surface.
Toutes les fois où il est venu chez moi, toutes les fois où je l'ai appelé, on s'est changé des tenues de foot, il m'avait prêté ses crampons.
Au centre de leur amitié, la passion du foot qu'ils partageaient dans le club du Bourget, commune de Seine-Saint-Denis, dont ils sont tous les deux originaires.
Moi, surtout qu'à une époque, j'étais gardien de but, ils me charriaient, quoi. Ah, là, je t'en ai mis un pied droit, bah, je vais t'en mettre un pied gauche. Allez, réveille-toi. Ils savaient autant rigoler sur lui que sur les autres. Moi, c'est ça vraiment qui m'a marqué avec lui.
C'était un pilier de l'équipe, souligne son coach Eric. Dan, il l'a connu en 2019. Il avait à peine 20 ans.
C'était déjà un joueur d'une classe incroyable, brillant sur le terrain et toujours respectueux avec ses partenaires. Toujours aussi très ambitieux. Il aimait gagner. Il a été indispensable.
Une disparition brutale.
C'est un vrai drame, il va terriblement nous manquer.
Le club prévoit de lui rendre prochainement hommage.
Et donc 15 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de cet attentat qualifié de terroriste et d'antisémite par les autorités locales. C'est la communauté juive qui était visée, rassemblée pour la fête de Hanouka sur cette plage prisée de Sydney. Et ce matin, l'enquête avance, on en sait plus, Rachel Sadodine, sur le profil des deux assaillants, deux hommes, un père et son fils.
Âgé de 50 ans, le père a été abattu par les policiers lors de son interpellation. Blessé, le fils de 24 ans est lui actuellement hospitalisé dans un état critique, placé sous surveillance policière. Selon la chaîne australienne ABC, il avait fait l'objet d'une enquête de renseignement australien en 2019, soupçonné d'être étroitement lié à un membre du groupe État islamique. Toujours d'après la télévision publique, père et fils avaient prêté allégeance à l'organisation djihadiste. Des drapeaux de l'État islamique ont été retrouvés dans leur voiture avec aussi deux bombes artisanales. Ces informations ne sont pour le moment pas confirmées par la police australienne. Elle indique cependant que l'attaque a été commise avec les fusils personnels du père, détenteur d'une licence d'armes depuis 10 ans.
Un drapeau en berne, journée de deuil national ce lundi en Australie. Et dans ce contexte, la France annonce, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de relever le niveau de vigilance et de sécurité autour des lieux de culte.
Autour des lieux de culte juifs, mais aussi à l'approche des fêtes de Noël chrétiennes. L'antisémitisme partout, les juifs visés jusqu'à l'autre bout de la planète. Comment est-ce que vous vivez cet épisode, ce dernier épisode d'antisémitisme et de terrorisme? Vous nous appelez au 32-16.
Il est 7h04, vous écoutez RMC. La ministre de l'Agriculture attendue ce matin dans le sud-ouest, Annie Genevard, doit rappeler sa volonté d'étendre la vaccination des troupeaux de bovins. Seule solution, dit-elle, permettant de lutter contre la propagation de l'épidémie de dermatose nodulaire, attendu de pied ferme par des agriculteurs toujours mobilisés ce matin sur différents axes dans le sud-ouest. C'est notamment le cas à Carbonne sur l'A64 au sud de Toulouse. Sur place en direct ce matin, notre envoyé spécial Cassandre Aubreau au cœur de la mobilisation. Cassandre.
Oui, les agriculteurs sur ce blocage sont en train de se réveiller ici. Ils viennent juste d'allumer les spots. On aperçoit les premières tasses de café fumant. Ce matin, il y a de nouveaux chauffages extérieurs à gaz, de quoi faire brûler du bois dans des fûts en métal. Signe que le blocage est bien parti pour durer ici à Carbonne. Des klaxons d'automobilistes se font entendre au loin. Leur façon d'apporter leur soutien à ces agriculteurs qui ont peu d'espoir que la visite de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, aujourd'hui débouche sur de nouvelles annonces. Les syndicats comme la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne protestent contre le principe de l'abattage systématique des troupeaux. Ils réclament l'abattage des animaux malades seulement et une large vaccination des 16 millions de bovins français contre la dermatose nodulaire.
Cassandre Brou en direct de Carbone pour RMC. Notez que la France a demandé à l'Europe de reporter la signature de l'accord avec les pays du Mercosur prévu cette semaine.
RMC 7h05, le marathon du budget se poursuit.
C'est aujourd'hui que le Sénat doit voter le projet de loi finances avant un retour du texte à l'Assemblée nationale dans la semaine et toujours dans la perspective d'un vote avant le 31 décembre. Si le gouvernement se dit convaincu d'obtenir un budget pour 2026, beaucoup en doute. Les tensions demeurent. Et ce matin, dans les colonnes du Parisien, Elisabeth Borne plaide un passage en force. Habitué de la manœuvre, à 23 reprises, l'ex-première ministre appelle Sébastien Lecornu à faire machine arrière. Cyprien Pézeril a utilisé le 49-3.
Pour la première fois, une macroniste de premier plan rejoint François Hollande, Bruno Retailleau, Gérard Larcher et appelle au 49-3 pour adopter le budget. Le gouvernement peut engager sa responsabilité, suggère Elisabeth Borne, qui y voit une façon moins engageante pour les oppositions de permettre l'adoption, ce qui évite ainsi aux partis comme le PS d'apporter formellement leur soutien. Appeler au 49-3, c'est dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, reconnaît un chef socialiste. Ces dernières heures, Olivier Faure laissait même entendre que la censure ne serait pas automatique si un accord en amont d'un 49-3 a été trouvé, mais le gouvernement jure que sa position est inchangée, pas de passage en force, du moins pour l'instant. En octobre, Elisabeth Borne était la première de son camp à appeler à la suspension de la réforme des retraites, option finalement retenue par Sébastien Lecornu.
Les portes du Louvre vont-elles rester fermées ce matin? C'est à 9h que les salariés du musée doivent se réunir pour se prononcer sur l'appel à la grève reconductible lancée par les syndicats contre les conditions de travail dégradées et la détérioration des conditions d'accueil du public. Notez également le retour de l'extrême droite au Chili plus de 20 ans après la chute du régime de Pinochet. José Antonio Caste a été élu président de la République avec plus de 58% des suffrages.
RMC 7h07, Lens passera les fêtes au chaud en tête de la Ligue 1.
Tombeur de Nice, 2-0. Les Sang et Or ont deux points d'avance sur le PSG ce matin, suivi par Marseille qui a arraché sa victoire hier soir face à Monaco. 1-0 en clôture de la 16e journée. Marseille sauve sa place sur le podium grâce à un but de Greenwood au terme d'un match. Encore une fois, brouillon, Florent Germain.
Oui, l'OM a souffert mais n'a rien lâché. Comme à Bruxelles mardi dernier en Ligue des Champions, deux buts refusés à son adversaire pour hors-jeu, des parades en pagaille du gardien Geronimo Rulli et un Mason Greenwood en sauveur pour arracher la victoire au grand soulagement des supporters marseillais.
On finit l'année en beauté sur une victoire. Donc voilà, encore une fois, merci à Greenwood, merci Rulli. Deux hommes de la première partie de saison.
C'était assez mitigé quand même. On a eu un match plutôt compliqué. Après, c'est pas le meilleur qu'on ait fait, c'est pas le pire.
Disons que bon, on aurait bien aimé mettre un peu le feu avec un match du niveau que l'on attend de cette équipe-là. Voilà. Après, bon, c'est sûr, on est heureux, on a gagné, c'est Monaco.
L'OM reste donc sur le podium de Ligue 1. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, peut faire le bilan de la mi-décembre sereinement.
Avant de penser à Noël, la question sera de savoir si je suis vraiment satisfait. Cette victoire contre Monaco montre qu'on a du caractère et de l'orgueil. On est dans le coup, mais je ne peux pas être content à 100%, car on est à 5 points du leader et on a perdu trop de points de manière stupide.
Avant les fêtes de Noël, l'OM devra faire le métier également en Coupe de France. Ce sera dimanche à Bourg-en-Bresse.
À retenir également les victoires de Lille et de Lyon, 4e et 5e du classement ce matin.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. On part sur le terrain, vous êtes nombreux à nous appeler pour réagir à cette crise agricole. Et c'est notamment le cas de Christophe qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Christophe.
Bonjour Apolline.
Vous-même vigneron et éleveur, éleveur de quel genre de bêtes?
Des cochons.
Des cochons, donc vous n'êtes pas à ce stade concerné par la question immédiate des bovins. Est-ce que vous soutenez vos collègues? Est-ce que vous soutenez le mouvement agricole?
Oui, j'étais d'ailleurs en Ariège les trois jours et j'ai fait partie des gazés, oui.
Des gazés, comme vous dites. Alors, j'ai toujours du mal avec cette expression que je trouve qui est très... Enfin, voilà, qu'on remet un peu à toutes les sauces. Mais ça veut dire que vous vous êtes retrouvé pris dans des affrontements avec les forces de l'ordre?
Affrontement, non. Hein, il faut arrêter ce terme. On a juste essayé de retenir les forces de l'ordre. Mais bon, voilà, on a reculé, je vais dire, pacifiquement. Les seuls qui ont pu leur jeter des projectiles, c'était l'ultra-gauche ou les Black Box, reconnus par les CRS.
Nous, on a fait que... Qui était là aussi?
Ouais, il y avait une vingtaine d'éléments, oui.
Qui, eux, n'avaient rien à voir avec vous? Vous avez l'impression qu'ils ont profité de votre situation?
Oui, bien entendu, bien entendu. Mais nous, aujourd'hui, le monde agricole se soulève. Il y avait la Confédération paysanne, il y avait les ultras de Jérôme Bail, il y avait la coordination rurale dont je fais partie. On va faire une action demain conjointement avec la coordination, avec la Confédération paysanne dans l'Hérault. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol agricole. C'est au-delà de la DNC.
Pour vous, c'est même pas la question immédiate de vaccin, pas vaccin. C'est une colère qui gronde, qui ne s'est en réalité jamais vraiment arrêtée.
C'est-à-dire qu'elle a démarré il y a deux ans. Par un tour de passe-passe, on nous a fait croire des choses. Voilà. Bon, là, ce coup-ci, c'est un général.
Quand vous dites demain, il y aura des actions, où, comment, sous quelle forme?
Je peux pas vous les dire à la radio, désolé.
Mais appelez-nous demain matin pour nous dire. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes déterminé, vous n'êtes pas du tout prêt à lâcher la bataille.
Ah non, c'est pour sauver l'arboriculture, la céréale, la viticulture, l'élevage, c'est un tout.
Et il y a aussi, on le sent bien, une forme de division au sein même du monde syndical agricole. Vous faisiez référence à l'instant à la coordination rurale. Aujourd'hui, la FNSEA, à l'inverse, soutient la stratégie telle qu'elle est faite de vaccination et d'abattage ponctuel des troupeaux. Cette division, on l'entend, votre parole ce matin et à 7h40, tout à l'heure, la porte-parole du syndicat de la FNSEA qui sera en direct avec nous sur RMC. On veut tous vous entendre. Vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est une info RMC que l'on vous dévoile ce matin. Un proche de Mohamed Amra a renseigné les enquêteurs pendant sa cavale. Ce témoin, sous X, a permis d'aider à la capture du criminel français, un temps considéré comme l'homme le plus recherché de France. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour Apolline.
Reporter du service police-justice d'RMC. C'est vous qui nous révélez ce témoignage que l'on ignorait jusqu'à présent. Et Mathieu, beaucoup de messages ce matin au standard. On va parler de toute autre chose parce que sur l'application RMC notamment, les réactions, c'est aussi au choix de la rédaction sur Pronote.
Oui, le choix de la rédaction, on a parlé de ce collège qui a décidé de se passer de Pronote pour ne pas que les élèves passent trop de temps sur leur smartphone. C'est une des clés du débat sur les écrans. Est-ce que c'est de la faute de l'école si nos enfants sont sur les écrans? Alors, ça a fait débat, mais on a beaucoup de messages pour responsabiliser les parents. Je commence par Greg, hein. Si les adultes étaient moins sur leur portable, pour montrer l'exemple, je suis serveur quand je vois les parents à table scotchés sur le téléphone. C'est pire que les gamins. J'ai cet autre message qui nous dit, c'est vrai que c'est trop dur de répondre à un enfant qui vous dit, je peux pas faire mes devoirs si tu me supprimes mon téléphone, mais on n'est pas capable, nous, en tant qu'adultes, d'aller sur Pronote pour lui fournir les devoirs qu'il a à faire. Ce chantage, c'est ridicule, c'est faux à quel point nous, adultes, on se déresponsabilise. Voilà ce que dit ce message sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. J'ai Pierre qui nous dit, même les adultes ont du mal à gérer leurs priorités sur le téléphone. Combien de fois dans la journée il nous arrive de prendre notre téléphone pour une action bien précise et de se retrouver à scroller par ailleurs sur un réseau social?
À tout de suite Mathieu et puis Pierre Bazin avec cette exclusivité RMC sur la cavale de Mohamed Amra. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et à la télé sur RMC Story. Ses habitudes, des confirmations, mais aussi des renseignements sur sa vie passée. C'est une information RMC. Un témoin sous X a renseigné les enquêteurs pendant la cavale de Mohamed Amra. Des informations précieuses pour cette longue enquête qui a permis la capture en février dernier du criminel le plus recherché de France. Après son évasion spectaculaire et tragique en mai 2024 au péage d'Incarville, qui avait tué deux agents pénitentiaires. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour Apolline.
Vous êtes
bonjour
reporter du service police-justice d'RMC et avec Julie Brault, c'est vous qui nous révélez ce témoignage. Grâce à lui, on apprend que Mohamed Amra a passé une bonne partie de sa cavale en France en réalité et dans sa région d'origine.
Oui, ce qui est d'ailleurs particulièrement intéressant selon les enquêteurs avec ce témoin, c'est qu'il a vu Mohamed Amra au cours de sa cavale. Souvenez-vous, Amra est interpellé en février 2025 et c'est deux mois avant son interpellation en décembre qu'un homme vient livrer des informations importantes aux enquêteurs. À ce moment-là, plusieurs sources nous indiquent que les policiers cherchent autour de l'Espagne, autour de la région parisienne, mais aussi en Normandie, dans la région natale de Mohamed Amra. Et ce témoignage sous X est important puisqu'il va expliquer aux enquêteurs qu'à l'été 2024, deux mois après le début de la cavale de Mohamed Amra, il l'a vu à Rouen. Le fugitif le plus recherché de France est alors à l'entrée d'un kebab en train de discuter avec un homme d'une quarantaine d'années. Et même si selon ce témoin, le fugitif Mohamed Amra a grossi du visage, il est sûr de lui à 100% puisqu'il le connaît, il connaît Mohamed Amra, il n'a aucun doute. Et selon une source proche du dossier, il nous glisse même que l'interlocuteur est convaincu que Lamouche est venu donner des instructions à quelqu'un qui fait tourner un peu son business, on va dire, pendant sa cavale.
C'est un témoignage exceptionnel et rare.
Oui, c'est une de nos sources nous précise que c'est un témoignage qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir très souvent dans ce type d'enquête ultra sensible, puisqu'on le sait, ceux qui collaborent avec la police risquent gros, ils prennent de gros risques pour eux, pour leurs proches, alors quand les informations sont très utiles à l'enquête et qu'il est impérieux de protéger les informateurs, il existe une procédure exceptionnelle qui s'appelle le témoignage sous X. C'est décidé par un juge d'instruction et un juge des libertés de la détention, et grâce à cette procédure, le nom du témoin n'apparaîtra jamais dans le dossier d'instruction. D'autant que dans ce dossier, plusieurs sources nous indiquent qu'il s'agit d'un proche, voire d'un très proche de Mohamed Amra.
Parce qu'effectivement, les informations qu'ont livrées ce témoin laissent montrer que seul un très proche, au fond, de Mohamed Amra peut avoir ce genre d'information.
Oui, puisque selon plusieurs de nos sources, ce témoin a pu décrire l'environnement criminel de la mouche, expliquer son ascension dans la criminalité organisée. Il aurait listé les noms de complices potentiels. Aujourd'hui, 4 d'entre eux sont mis en examen. Et puis, ce qui est surprenant aussi, c'est que selon nos informations, l'interlocuteur des policiers aurait été en mesure de détailler l'environnement personnel de l'ancien fugitif, les différentes relations entre Amra, sa sœur, Amra et sa mère, mais aussi ses différentes compagnes, les officiels, les officieuses, celles qui auraient pu l'aider. Le témoin connaît même, selon une source proche de l'enquête, le surnom que la mouche donne à son fils, ou encore les habitudes de vie de Mohamed Amra.
Et ce témoignage, il a été clé pour l'enquête, évidemment.
Ce qui est certain, c'est qu'avant ce témoignage, les enquêteurs avaient déjà plusieurs pistes, ils avaient beaucoup travaillé, mais ce témoin est venu confirmer plusieurs éléments très importants, notamment que 2 mois avant que Mohamed Amra parte en Roumanie, il était encore en France, à Évreux notamment, où il aurait acheté de la drogue. L'enquête démontrera que ce témoin ne s'est pas trompé.
Mohamed Amra est aujourd'hui l'un des détenus les plus surveillés de France.
Oui, il est incarcéré à Condé-sur-Sarthe, dans l'une des prisons de haute sécurité créées justement après son évasion par Gérald Darmanin. Au total, il y a plus d'une quarantaine mises en examen dans ce dossier. Certaines personnes sont soupçonnées d'être des membres du commando d'Incarville ou d'autres qui ont participé à la logistique qui a permis la cavale de Mohamed Amra et de ses complices.
Merci Pierre Bazin. Pierre Bazin, reporter au service police-justice d'RMC. Merci aussi à Julie Brault, avec qui vous avez donc recueilli ces informations. À retrouver en longueur d'ailleurs sur le site internet d'RMC. Il est 7h19 et pendant ce temps-là, c'est l'historien d'Apolline Matin qui est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce week-end sur France 2, Jordan Bardella a annoncé soutenir la réouverture des maisons closes, des lieux de prostitution vieux comme le monde.
Oui, et la France a même longtemps été très connue pour ces maisons closes, hein. Et chez nous, c'est Napoléon qui les a légalisées, figurez-vous.
On se retrouve dans 60 secondes exactement sur RMC, 7h19, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce week-end, Jordan Bardella s'est dit favorable à la réouverture des maisons closes. Le président du RN qui soutient donc la proposition du député Jean-Philippe Tanguy. Cette question des maisons closes est en train de se transformer en véritable débat national.
Oui, d'un côté, il y a ceux qui sont pour, hein, comme Jordan Bardella. Ils pensent que c'est une question de sécurité, que ça permet d'encadrer la prostitution et évidemment de protéger les prostituées. De l'autre, il y a ceux qui sont contre. Rouvrir les maisons closes, ça serait un retour en arrière et une insulte à toutes les femmes.
Alors d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est interdit depuis quand les maisons closes en France ?
Alors, c'est interdit depuis 1946, donc c'est assez récent, hein, mais on a passé beaucoup plus de temps avec les maisons closes que sans, puisque c'est aussi vieux que la prostitution. Dans l'Antiquité, il y avait déjà des maisons closes, et il en reste quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous savez d'où vient le mot lupanar, Apolline ?
Non.
Alors, lupanar, ça vient de lupa. Lupa, c'est du latin. Et à Rome, une lupa, ça désignait une prostituée. Voilà comment on est arrivé à lupanar.
Lupanar, donc. Et en France, il y en a toujours eu ?
Alors, de façon plus ou moins encadrée, de façon aussi plus ou moins légale. Mais oui, au Moyen-Âge, il y avait des maisons closes. Mais alors, attention, c'était évidemment très mal vu. Ça a toujours été dans des endroits un peu cachés, à l'écart des lieux de vie. Et ces maisons devaient se signaler par une lumière rouge. Voilà pourquoi le rouge va devenir la couleur, entre guillemets, de la prostitution, avec les quartiers rouges, comme celui d'Amsterdam, par exemple.
Alors, c'est Napoléon qui légalise les maisons closes.
Oui, c'est Napoléon. Alors, attention, c'était une question d'ordre et de santé publique. Le but, c'était d'éviter la transmission des maladies et aussi, il faut bien le dire, de cacher les prostituées. Mais l'âge d'or des maisons closes, c'est plus tard. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle, sous la Troisième République, Paris était considéré comme la capitale du tourisme sexuel en Europe.
Donc on ne cachait plus les maisons closes.
Alors en tout cas, pas toutes. Hein. À Paris, il y avait des maisons closes pour la très haute société, hein, y compris dans des quartiers chics. et l'établissement le plus luxueux de la capitale, ça s'appelait le Chabanais. Le Chabanais, un endroit archi-select. Les clients, c'était que des ministres, des diplomates, des artistes très en vue. Un des habitués, c'était même le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Il avait carrément sa chambre à l'année. Passer au Chabanais, ça faisait partie des réceptions officielles. Hein. Vous dîniez à l'Élysée et après, hop, au bordel. C'était donc aussi un endroit où on faisait des affaires pour les puissants.
Enfin, j'imagine que toutes les maisons closes n'étaient pas aussi chic. Hein.
Mais non, bien sûr, c'est tout le problème. L'écrasante majorité, c'était des endroits sordides, dangereux, où les femmes étaient exploitées et surtout très loin d'être en sécurité. Hein. Les filles devaient parfois faire plus de 70 passes par jour, monstrueux. Donc la réouverture, pourquoi pas, mais enfin c'est quand même loin d'être la solution à tous les problèmes. En tout cas, ça n'a rien d'une évidence, et si ça se fait, il faudra les encadrer très strictement.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud, bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois la députée européenne Marion Maréchal.
Oui, Marion Maréchal qui est un peu le faux-d'elle de l'extrême droite. Hein, c'est celle qui était à la mode avant, mais maintenant les électeurs, ils préfèrent les jeunes Jordan Bardella et Sarah Knafo. À 36 ans, Marion, elle est déjà obsolète. Même DiCaprio, il trouve ça abusé quand même. Oh. Alors Marion Maréchal qui a rencontré le pape Léon XIV, le jour de son anniversaire, c'est quand même classe. Hein. Moi, le climax de mes anniversaires, c'est quand je voyais mon nom défiler à toute vitesse dans le générique du Club Dorothée. Il fallait cligner des yeux et pas se louper. Et alors, elle a écouté le pape faire un discours sur les petits, les pauvres, ceux qui souffrent, etc. Elle a écouté, puis elle a remis au pape une charte en 15 points, rédigée par ses eurodéputés, pour bien expliquer que non, l'Europe chrétienne, ça veut surtout dire une Europe avec des chrétiens dedans. Voilà, c'est la façon diplomatique de traiter le pape de sale gauchiste immigrationniste qui va pas nous les briser longtemps avec ses histoires d'accueil de migrants, de tolérance envers les goudous à moustache, etc. etc. Autre dossier ce matin, les bons sondages de Jordan Bardella, qui s'est quand même pris les pieds dans le tapis à quelle époque samedi soir, vous l'avez vu ? Il y avait une séquence, il y avait Roselyne Bachelot à côté de lui. Léa Salamé montrait des photos de personnalités en demandant si vous aviez une question à lui poser. Vous connaissez ce procédé-là. Donc, elle montre une photo de Sarkozy, Bardella répond.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Devant Trump, Bardella répond.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Et donc, évidemment, évidemment, devant Poutine, c'est Bachelot qui le vanne, photo.
Où trouve-t-il toute cette énergie ?
Éclat de rire général, parce que vraiment, c'est une réponse d'adolescente en chaleur devant les To Be Free, quoi. Bardella face à Trump, c'est... Vous l'imaginez en Russie, Bardella en vrai, face à Trump et à Poutine à une réunion sur l'Ukraine, il va revenir. Écoutez, j'ai été très ferme avec le président Trump et le président Poutine. Et eux aussi ont été très fermes, mais plus quoi, ils dégagent une énergie, un charisme. Moi j'étais super content d'être là, de les voir en vrai quoi, parce que Poutine vraiment, oh, tu te dis en vrai, pff. Quand il m'a demandé, je vais prendre la Moldavie, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une sorte de Thibaut Inchep qui aurait lu des livres, il est incroyable, impressionnant. Quand il m'a demandé Strasbourg, j'ai dit mais vas-y, prends-le, de toute façon j'y vais jamais au Parlement européen, je m'en fous, je peux récupérer. Enfin, vous reviendrez avec Marion Maréchal sur la colère des éleveurs. Alors elle connaît les problématiques puisque sa tante est éleveuse de chats dans les Hauts-de-Seine, elle sait.
Tout voilà. À fait, bien sûr.
Et elle est contre l'abattage du troupeau en cas de bête malade. Et ça se comprend. Quand tu te souviens du nombre de brebis galeuses au RN aux dernières législatives, elle a aucune envie d'être euthanasiée à cause d'eux. On n'abat pas tout le troupeau. Allez, rendez-vous avec Marion Maréchal à 8h30. Elle a une énergie, cette fille. Une énergie.
Arnaud Demange, je vous retrouve évidemment en direct à 8h15 tout à l'heure, mais c'est déjà l'heure. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure de gagner, de gagner. On vous couvre de cadeaux. Vous allez pouvoir remporter ce matin des produits high-tech. iPhone 17, télé QLED, AirPod Max, montre connectée, MacBook Air, c'est énorme. Restez bien connectés et surtout un seul chemin. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16 pour gagner. Le gagnant sera donc en direct avec moi à 8h20 pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc bonne chance à tous. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, nous serons en direct avec l'un des proches de Dan El-Khayyam. C'est ce Français juif tué hier dans l'attentat antisémite en Australie. Stupeur et immense tristesse de ses proches en pleine fête de Hanouka. Et à 7h40, l'invité d'Apolline Matin, c'est le porte-parole du principal syndicat agricole, la FNSEA. Faut-il continuer à abattre l'ensemble des troupeaux en cas de dermatose nodulaire ? Le monde agricole se déchire, le gouvernement ne va pas dévier de sa stratégie malgré la colère des agriculteurs. Les blocages encore dans de nombreux points en France ce matin, on en parle au 32-16 aussi avec vos témoignages et vos réactions. Vous nous appelez pour le standard d'RMC. Il est 7h27.
RMC, Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h30, le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les vacances ont déjà quasiment commencé au collège Champollion de Dijon, mais vous allez l'entendre, ça ne fait pas si plaisir que ça aux élèves dont l'établissement a été incendié, probablement par des narcotrafiquants. Face à la colère des agriculteurs qui se battent contre l'abattage de leurs vaches, les vétérinaires en première ligne, leurs craintes et leur incompréhension dans ce journal. Et puis la vidéo a déjà fait le tour du monde, celle du père de famille qui a désarmé l'un des terroristes de Sydney en Australie, sauvant des dizaines de vies.
Les grilles du collège Champollion à Dijon ne rouvriront pas ce matin.
Et pour cause, l'établissement a été ravagé par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Il ne pourra pas rouvrir avant la prochaine rentrée de septembre, tant les travaux s'annoncent colossaux. Les 490 élèves auront cours à distance à partir de jeudi. Pour l'heure, c'est bien la piste criminelle qui est envisagée. Et selon le préfet de Côte d'Or, cela pourrait bien avoir un lien avec le narco-banditisme. Pas rassurant pour ces parents d'élèves rencontrés par Caroline Renaud pour RMC.
Des murs noircis par les flammes, des ordinateurs en cendres et des plafonds fondus. En voyant les photos des dégâts du collège de sa fille, Nadia a du mal à y croire.
Brûler un endroit symbole de l'éducation, c'est d'une violence inouïe. Les enseignants, les élèves n'y sont pour rien.
Même émotion chez Aziza, mère de deux enfants en 5e et 3e.
Je n'ai les larmes aux yeux. C'est un désespoir, c'est d'une tristesse, c'est de la colère.
Elle est aussi représentante de parents d'élèves et s'inquiète pour les 490 collégiens de l'établissement.
Qu'est-ce que vont devenir nos enfants ? L'étape psychologique de nos enfants après cet incendie.
Dès ce matin, deux cellules d'écoute accueilleront les élèves, mais aussi le personnel éducatif, car la piste du narcotrafic, privilégiée par le procureur de la République de Dijon, alarme plusieurs professeurs comme François.
Et là, on vient de s'attaquer au bâtiment, parce que la prochaine étape, ça ne sera pas agression physique sur le personnel de l'éducation nationale.
Les cours reprendront à distance dès jeudi et jusqu'aux vacances de Noël. L'organisation à partir de janvier, elle, reste à déterminer.
Et notez que les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur se rendront sur place aujourd'hui. Annie Genevard, elle, se rend à Toulouse ce matin. La ministre de l'Agriculture va tenter d'apaiser la colère des éleveurs qui s'opposent à l'abattage généralisé de leurs vaches en cas de contamination à la dermatose nodulaire. Elle lancera la campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la maladie avec en première ligne les vétérinaires sur le pont et parfois ciblés par les agriculteurs. Une colère qu'ils comprennent mais qu'ils ne digèrent pas, Marion Gauthier.
Beaucoup gardent le silence. Les menaces se sont amplifiées sur les réseaux sociaux.
Et on craint qu'un tel ou un tel soit tout d'un coup nommé.
Raconte Frédéric Decante, le secrétaire de l'Ordre des vétérinaires d'Occitanie, témoigne de l'incompréhension dans sa région.
Comment être fustigé, comment recevoir de la terre sur les voitures, comment être arrivé avec ses gendarmes. Quand on est prêt comme ça, nuit et jour à partir pour aller aider, pour être des personnels de soins. C'est insupportable, cette violence.
Des soignants proches des agriculteurs et qui redoutent les abattages, insiste ému le docteur Alexandre Dimberton en Bourgogne-Franche-Comté.
C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais c'est quelque chose qu'on fait pour l'intérêt de nos éleveurs. Et ce qui me blesse, c'est que des éleveurs doutent de ça. Ces opérations-là qu'on fait, on les fait pour la santé globale de tout le monde, pour économiser, entre guillemets, des vies à des animaux et permettre aux éleveurs voisins de ne pas être contaminés.
Il rappelle qu'en Savoie et en Haute-Savoie, l'abattage des troupeaux infectés et la vaccination ont permis d'éradiquer l'épidémie de dermatose nodulaire.
Et appelez-nous pour témoigner, que vous soyez agriculteur vous-même ou que vous les souteniez. Dites-nous aussi également si vous voyez des blocages autour de chez vous. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424.
Il est 7h33 sur RMC. En Australie, le bilan s'est alourdi après l'attentat antisémite qui a eu lieu à Sydney hier en pleine fête de Hanouka. 15 morts, dont un jeune Français de 27 ans et une quarantaine de blessés. Les deux assaillants, un père et son fils, ont été pour l'un abattus, pour l'autre blessés. Mais derrière l'horreur de ce drame, il y a un homme qui a redonné espoir au monde entier par son courage. C'est lui qui s'est interposé auprès de l'un des tireurs. Il s'appelle Ahmed et son acte héroïque a fait le tour du monde, Lou Garnier.
Sur une vidéo amateur, on le voit se jeter sur l'un des deux assaillants par derrière. Après quelques instants de lutte, il réussit à le désarmer. Il le tient en joue et l'assaillant recule. Une chaîne de télévision australienne l'a identifié. Il s'agit d'un père de famille de 43 ans, propriétaire d'un magasin de fruits. Selon son cousin, il a été blessé à deux reprises pendant l'altercation, mais ses jours ne seraient pas en danger.
Il a reçu deux balles, l'une dans son bras, l'autre dans sa main. C'est un héros. À 100%, c'est un héros.
Un acte de bravoure salué à travers tout le pays. Chris Minns, c'est le chef du gouvernement de la province de Sydney.
Je pense qu'il faut se rappeler que dans tout cet enfer, dans toute cette tristesse, il y a toujours des Australiens courageux prêts à risquer leur vie pour aider des inconnus.
Son courage a permis d'éviter de nombreuses victimes supplémentaires, selon les autorités locales.
L'appel de la dernière chance de la mère de Christophe Glaise, ce journaliste français incarcéré en Algérie et condamné à 7 ans de prison ferme en appel pour apologie du terrorisme. Sylvie Godard a adressé au président algérien une demande de grâce pour son fils qui va par ailleurs se pourvoir en cassation. Il est 7h35 sur RMC et les handballeuses françaises repartent des mondiaux aux Pays-Bas médaillées de bronze après leur victoire 33-31 arrachée après prolongation contre les Néerlandaises qui jouaient donc à domicile. Une joie immense et un beau cadeau d'anniversaire pour Fatou Karamoko, dont c'était la toute première compétition en bleu.
C'est incroyable, franchement. Les émotions que j'ai vécues ce soir, c'est waouh. Je sais pas quoi dire, je suis juste hyper contente qu'on ait gagné cette putain de médaille parce qu'on a vraiment bossé tout ensemble. Le travail qu'on a fait, il a payé quoi. Et là, elles étaient chez elles avec leur public, etc. Donc elles allaient faire le show et tout. Fallait les éteindre et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 20 ans et il y a la breloque autour du cou, donc ça fait plaisir. Voilà, un meilleur cadeau, j'en parlerai à mes gosses.
En football, l'OM conserve sa troisième place grâce à sa victoire 1-0 face à Monaco hier soir avec un but tardif inscrit par Mason Greenwood à 10 minutes de la fin. Lens de son côté conserve sa place de leader devant le Paris Saint-Germain.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Sign of Stars. L'outsider, c'est le 7, Kamakura One.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h36 et vous en parliez à l'instant dans votre journal, Élise. Parmi les victimes de l'attentat antisémite en Australie, un Français, Dan El-Khayyam. Bonjour Pascal Elbaz.
Bonjour.
Pascal Elbaz, vous êtes l'entraîneur du Maccabi France, une équipe de foot de région parisienne. Vous connaissiez bien Dan, vous l'aviez même entraîné. Parfois, il était parti en Australie il y a 2 ans comme ingénieur. J'imagine le choc ce matin, la tristesse. Parlez-nous de Dan El-Khayyam.
Si j'ai accepté de faire cette interview, c'est vraiment pour lui, pour lui rendre hommage et surtout pour pas qu'on l'oublie parce que c'était un être exceptionnel, un garçon d'une gentillesse rare, très discret, mais comme vous pourrez le voir sur toutes ces photos, un sourire magnifique, exceptionnel et une bonté d'âme que j'ai rarement vue.
Et effectivement, les photos que les proches nous ont données, et je recommande à ceux qui nous écoutent à la radio d'allumer la télé, RMC Story, Canal 23, pour voir ce visage, effectivement, rayonnant. Comment on vit ça dans la communauté juive aussi en France, ce choc immense, cet attentat qui a ciblé des juifs, dont votre ami?
Comme pour tous les autres attentats, ça reste une tragédie. C'est vraiment terrible, c'est horrible. Franchement, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est des gens c'est des jeunes ou des moins jeunes qui allaient juste à une fête. Pour fêter Hanouka. Hier, c'était le premier jour de Hanouka et c'est vraiment terrible de voir ce qui peut se passer quand les gens y viennent pour communier, pour fêter, pour être heureux. Ils se retrouvent en plein milieu d'un attentat et à partir du jour au lendemain. Donc, c'est terrible pour nous, c'est terrible pour la famille, c'est terrible pour tous les joueurs du Maccabi France, pour tous les athlètes. Nous, pour tous ses amis, ça a été un vrai choc parce que nous, on savait que depuis 2 ans, il était là-bas. On était heureux pour lui parce que on voyait qu'il s'épanouissait en Australie. Et on devait faire une compétition avec lui en juin. On était très contents qu'il participe avec nous. Et malheureusement, la vie en a voulu autrement et c'est terrible. Depuis hier, on est tous très tristes.
Vous vous appelez les uns les autres, vous oui, partagez. Oui. Il y a aussi la question de l'antisémitisme en France. Est-ce que ça réveille aussi cette question-là? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez serein?
Quand on est juif en France, c'est un peu plus compliqué de se sentir totalement serein. On sait tous qu'on doit tous faire attention et que maintenant c'est comme ça. C'est des données qui sont maintenant ancrées en nous. On doit vivre avec ça. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça la vie aujourd'hui et c'est dommage que, quelles que soient les religions, tout le monde devrait pouvoir vivre en paix et vivre sa religion comme il l'entend, sans avoir à se préoccuper de ce qui peut se passer. Mais malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. C'est comme ça. Il faut vivre avec. On apprend juste à vivre avec.
On apprend à vivre avec. Pascal Elbaz, merci de votre témoignage ce matin. Pascal Elbaz, ancien entraîneur donc de Dan El Kayam, victime française à nouveau de ce terrorisme, puisqu'il a été tué dans cette attaque terroriste antisémite hier en Australie. Merci de votre témoignage. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va avoir avec nous Emmanuel dans un instant, qui nous appelle de Maché en Vendée. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Emmanuel, vous êtes éleveur bovin. Vos vaches sont vaches laitières et vaches à viande. Oui, la question ça. Aujourd'hui qui se pose effectivement de cette colère agricole et d'un monde agricole qui est à la fois en colère mais qui est aussi divisé. On va revenir dans un instant avec vous, mais aussi avec Johan Barbe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Vous soutenez le principe de l'abattage préventif en cas de dermatose nodulaire. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel, votre témoignage à vous. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez soutenu?
Soutenu, ça devient compliqué de comprendre en fait les positions syndicales, quoi. Parce que moi, je suis syndiqué FDSEA depuis longtemps.
Ouais.
J'étais même impliqué dans le réseau au niveau local.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, quoi. Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à s'unir ensemble, quoi. Quand on voit les images de jeudi soir, les agriculteurs ont été
jeudi soir pris en Ariège, où effectivement les agriculteurs ont tenté de faire une sorte de blocage devant une ferme dont le bétail allait être abattu.
Exactement. Et moi, c'est des images qui choquent. Enfin, je sais pas. Moi, ce week-end, je sais pas. C'est la personne que vous avez avec vous de la FNSEA. Je sais pas si elle a vu des amis ou autres. Mais moi, tous mes amis ont été choqués par ces images. Hein, et je comprends pas qu'aujourd'hui le syndicat majoritaire ne peut pas s'entendre là-dessus, sachant qu'il y a des départements comme la FDSEA Haute-Garonne par exemple qui elle soutient le non-abattage. Enfin, il y a eu des communiqués qui sont apparus qu'on a vu. Alors à moins que ce soit défaut, hein, peut-être, parce que moi je suis que Vendéen, je suis pas là-bas. Hein. Mais il y a des choses qui sont pas claires. Alors entre eux, ils arrivent pas à se mettre d'accord entre dans les bases de la FDSEA, avec la tête de la FDSEA, on a l'impression de ne pas être écouté.
On entend parfaitement votre désarroi ce matin, Emmanuel, et on le sent bien, il y a aujourd'hui une grande inquiétude et effectivement une crainte. Comment comprendre, justement, Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA, vous répond dans un instant, il est dans ce studio, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC et sur RMC Story Canal 23. Est-ce qu'on en fait trop dans la lutte contre la dermatose nodulaire ou au contraire pas assez? Un monde agricole à la fois en colère et divisé face à la dermatose nodulaire, cette maladie qui touche les bovins et qui met le feu au monde agricole. Les blocages se poursuivent encore ce matin dans le sud-ouest, sur les autoroutes autour de Montpellier, Bordeaux, Toulouse. Bonjour Johan Barbe, vous êtes le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole. On a d'abord besoin de comprendre ce qu'il se joue. Il y a cette épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Et puis, il y a la question du vaccin. Et puis, il y a la question de l'abattage. Abattage systématique des troupeaux, y compris des troupeaux pour certains vaccinés. Et cela sème une grande confusion, une colère, une détresse. Quelle est la position aujourd'hui de la FNSEA ?
Bonjour. Donc déjà, je voudrais rappeler qu'on est complètement sur le sujet à la FNSEA et en compassion avec tous les éleveurs qui sont touchés aujourd'hui, de loin ou de près. Rappelez que cette maladie est apparue un peu plus de 6 mois sur le territoire national, fin juin, où on la connaissait quasiment pas, alors qu'elle était déjà dans des traités avec des accords européens. Ça, c'est un premier point important. Rappelez qu'au mois de juin, quand nos collègues des Savoie ont découvert cette maladie, tout de suite, ils se sont rendus compte qu'il fallait agir et malheureusement, le dépeuplement était la meilleure solution pour aller vite. Aller vite contre une maladie qui aurait pu gagner tout le territoire très vite.
En Savoie, la maladie a été contrôlée. Alors au prix d'un abattage, comme vous dites, de certains troupeaux, mais elle a été contrôlée.
Elle a été contrôlée, mais pourquoi les Savoie ont fait ce choix? C'est parce que déjà, ils se sont tout de suite renseignés sur les avis scientifiques nationaux, étrangers, et surtout parce qu'on connaissait pas la maladie, donc il fallait aller vite. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des pays où on n'avait pas fait le choix du développement, la maladie s'installait durablement. Et en France, on ne peut pas vivre avec cette maladie parce qu'il y a un trop gros risque économique sur nos exploitations. Et d'ailleurs, les éleveurs qui sont en détresse aujourd'hui ont autant un problème économique sur leur exploitation qu'un problème sanitaire. La plupart n'ont encore pas de problème sanitaire.
C'est d'ailleurs, au fond, ce que l'on pressent, c'est que la question de la dermatose n'est qu'une sorte d'étincelle qui remet le feu à une colère qui couvait.
Alors les étincelles étaient déjà là. Le premier qui a soufflé sur les étincelles, c'est le président Macron en annonçant la possibilité de signer un traité d'accord de libre-échange, notamment le Mercosur, qui impacterait l'élevage. Et aujourd'hui, on avait un élevage qui allait un peu mieux parce qu'on avait retrouvé des prix rémunérateurs. Derrière, on a ce problème, on va dire, sanitaire qu'on doit traiter à bras-le-corps. Et si la FNSEA, au niveau national, on pourrait sentir des distorsions avec notre base, c'est surtout qu'on déplore depuis des mois un manque d'information de la part du ministère de l'Agriculture pour informer l'ensemble des territoires sur le risque de
cette dermatose. Un mot sur ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le Mercosur, avant de revenir bien sûr à la question concrètement des blocages actuels dans le Sud-Ouest. Emmanuel Macron a dit hier, le compte n'y est pas à propos du Mercosur, et il demande un report de la signature du Mercosur. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que vous lui faites confiance?
Alors sur la demande du report, on peut lui faire confiance. Par contre, sur le fait de ne pas signer demain ou après-demain, on peut déjà lui faire un peu moins confiance.
Vous êtes inquiet là-dessus?
On est très inquiet parce que il a quand même fait allusion au moment où il était au Brésil qu'il allait pouvoir le signer, même si il y avait encore quelques
points de blocage. Il y a quoi? Il y a un double discours?
On sent un double discours et surtout on sent une France affaiblie au sein de l'Union européenne pour peser. C'est vraiment là le problème en fait, parce que le couple franco-allemand qu'on a connu jusque-là ne fonctionne plus. Et donc l'Europe avance sans la France, et ça, c'est pas entendable.
Vous avez entendu le témoignage d'Emmanuel à l'instant, qui appelait de Vendée, et qui au fond, jusqu'à présent, était un des adhérents de votre syndicat, mais qui aujourd'hui semble perdu, parce qu'effectivement, il y a ces images tragiques et qui retournent le cœur de ces éleveurs qui se battent pour ne pas perdre leur troupeau. Et puis, il y a malgré tout des avis qui divergent. Certains disent, et c'était notamment l'un des rapports en 2016, au tout début de la maladie, que si le troupeau est vacciné, l'abattage partiel suffirait plutôt que l'abattage complet du troupeau. Quelles recommandations faut-il suivre?
Aujourd'hui, on s'appuie toujours sur les avis scientifiques. Effectivement, quand on parle de l'Ariège, aujourd'hui, on est sur des troupeaux non vaccinés. Donc ça veut dire que malheureusement, il faut faire comme dans les Savoies, il faut agir vite pour contenir la maladie et vacciner dans le même temps. Et j'appelle aussi tous mes collègues éleveurs, puisque je suis moi-même éleveur, à faire attention à tous les déplacements d'animaux, ces mouvements d'animaux qui peuvent faire le mouvement justement de cette maladie. On sait très bien que les moustiques qui sont responsables de véhiculer la maladie ne peuvent pas faire des sauts de 100 km. Donc quand la maladie fait 100 km de déplacement, c'est parce qu'on a déplacé
les animaux.
C'est ça. Et après, moi, je voudrais rappeler quand même que scientifiquement, effectivement, pour l'instant, on suit les scientifiques. Mais si les scientifiques vont plus vite et nous proposent d'autres méthodes, nous serons les premiers à les accueillir. Mais pour l'instant, ça reste l'avis scientifique européen et français unanime. D'ailleurs, les vétérinaires sont d'accord avec ça.
Les vétérinaires qu'on a entendus dans le reportage du journal de 7h30, qui sont au bord des larmes pour certains, disant qu'évidemment, c'est pour eux tragique de devoir procéder à ce geste de l'abattage, de l'euthanasie des bêtes. Mais eux-mêmes disent que ce qu'ils trouvent le plus dur, c'est d'être si mal compris par les agriculteurs. Il y a aussi cette question aujourd'hui d'un monde agricole divisé, d'un monde syndical agricole divisé. Vous étiez jusqu'à présent le premier syndicat, le resterez-vous? On sent bien que la colère, elle est aussi du côté de l'autre syndicat agricole, la coordination rurale.
Et après, je pense que c'est pas une bataille syndicale. Enfin, ceux qui en font une bataille syndicale, ils se trompent. On est sur un combat sanitaire. Et si à la FNSEA, justement, on renchérit pas sur cette bataille syndicale, c'est parce que justement, on veut traiter le problème sanitaire en premier, sortir les éleveurs de cette crise sanitaire, et après, nous ferons le combat syndical s'il doit y en avoir.
Il y a la colère sur le terrain en France, et puis il y a une autre colère, celle face au Mercosur que vous évoquiez à l'instant, avec notamment un rassemblement prévu jeudi à Bruxelles. Est-ce que vous y serez?
Forcément qu'on y sera, puisque c'est à l'appel de la FNSEA et du COPACOGECA, donc notre instance européenne, qu'on a organisé cette action de longue date. Ça veut dire que le problème de la PAC, le problème du Mercosur, c'est des problèmes qu'on traite à la FNSEA depuis longtemps. Mais par contre, effectivement, le sanitaire a pris le dessus parce que ça, il y a une recrudescence dans le sud. Et donc, on a besoin d'être présent. Mais on sera aussi à Bruxelles pour faire entendre notre voix et espérer, alors, la fin du Mercosur. Ça, c'est un grand espoir. Le deuxième point, c'est quand même, enfin, que l'Union européenne reconnaisse l'intérêt de la PAC pour les éleveurs et pour l'agriculture française. Et derrière, on a aussi des collègues viticulteurs qui sont vraiment en difficulté. Et si je pense que dans le Sud, ça démarre, c'est aussi qu'on n'a toujours pas traité cette crise viticole en France.
Merci beaucoup, Johan Barbe, d'être venu sur ce plateau répondre à ces questions autour de la colère agricole. Vous êtes le porte-parole de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Il est 7h50 et dans un instant, c'est la voix de droite sur RMC. Louis Sarkozy, l'Australie qui se réveille après le pire attentat antisémite de son histoire. 15 morts en pleine fête juive de Hanouka, 15 morts dont un Français. Pour vous, Louis, notre pays, ici, est en plein déni de cette menace antisémite.
Oui, bonjour Apolline. La France aussi a son problème d'antisémitisme, mais il faut aussi le dire, la France est aussi une terre juive.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, juste avant de filer, retrouver la voix de droite, Louis Sarkozy. Mathieu, vous nous parlez du groupe britannique Coldplay qui dévoile son prochain projet.
Ah, ils s'arrêtent jamais, Coldplay, comme leur tournée mondiale Music of the Spheres, débutée en 2022 et qui bat tous les records. Des centaines de dates jouées, plus de 13 millions de spectateurs à travers le monde. Mais le chanteur Chris Martin a fait une annonce qui va captiver les fans. Lors d'un concert caritatif à Paris il y a quelques jours, Chris Martin a révélé que le groupe travaille actuellement sur son 11e album studio qui pourrait prendre la forme d'une comédie musicale. Une comédie musicale Coldplay, le livret aurait déjà été écrit avec le manager et le projet devrait voir le jour vers 2027. Révélation qui vient masquer aussi l'échec du dernier album. Une comédie musicale qui devrait précéder ce qui sera le dernier album du groupe, 12e et dernier album pour les 30 ans de carrière du groupe en 2028.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53 sur RMC et RMC Story. C'est la voix de droite ce matin, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
15 morts, dont un Français hier en Australie dans un attentat terroriste antisémite. Emmanuel Macron a exprimé la solidarité de la nation à sa famille, au peuple australien. Mais pour vous aujourd'hui, on est quand même face à une forme de déni en France.
Oui, et ce déni est devenu justement un réflexe. Les Juifs représentent 0,6% de la population française. Pourtant, les actes antisémites constituent la majorité des faits antireligieux, 62% en 2024. Pire encore, on en vient à excuser l'antisémitisme au nom de l'anti-sionisme. On met sur le même plan l'Israélien et le Juif comme s'ils étaient tous comptables de la politique de Benjamin Netanyahou. La France insoumise en particulier est coupable de cette approximation dangereuse et profondément suspecte.
Vous pensez qu'on a refusé de voir monter le danger ?
Oui, parce que reconnaître la menace, Apolline, oblige à agir, et agir, ça peut déranger. On parle de 15 morts, des familles décimées, des enfants pris pour cible pendant une fête religieuse. On ne peut plus appeler cela autrement que ce que c'est, de la haine antisémite et du terrorisme. Il faut le dire clairement, la gazification du débat international alimente et légitime cette haine.
Le ministre de l'Intérieur, ici en France, a demandé au préfet une vigilance maximale, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, à la fois Hanouka côté juif, mais aussi Noël côté chrétien.
Et heureusement, mais il faut le dire clairement, Apolline, nos compatriotes juifs français sont traités différemment. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier à Jérusalem une trentaine d'entrepreneurs franco-israéliens. Tous avaient fui la France par peur pour leur communauté, par peur pour leurs enfants. La France échoue ici à son devoir. Les Juifs de France partent et nous en mourrons à petit feu, économiquement, moralement, intellectuellement, culturellement.
C'est ce qu'on dit effectivement avant les drames, même si certains veulent minimiser.
Exactement, c'est toujours ce qu'on dit. On dit que ce sont des cas isolés, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'il faut rester calme. Et puis un jour, comme nous l'avons vu, il y a du sang sur le sable. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est l'habitude. Et on s'habitue ici à l'inacceptable.
Que faut-il faire ?
Alors d'abord, arrêtez de tourner avec les mots. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. L'antisionisme, Apolline, aujourd'hui, doit être aussi considéré comme tel. Il n'existe qu'un seul État juif au monde. Il fait la taille d'un département français. Vouloir sa destruction, c'est antisémite. Vouloir chasser les Juifs d'Israël, c'est antisémite. Dire de la rivière à la mer, c'est antisémite. Il faut sanctionner lourdement, sans répit, sans pitié, sans excuse, sans relativisme, sans hiérarchie des haines. Attaquer les Juifs, c'est attaquer la République.
Pour vous, ce combat, il dépasse largement la seule communauté juive.
Mais bien évidemment, aujourd'hui, ce sont les Juifs. Hier, c'était d'autres. Et demain, qui ? L'histoire, le monde, ça commence souvent avec eux, mais ça ne finit jamais avec eux. Alors oui, Israël est leur terre ancestrale. Et je comprends mes compatriotes qui souhaitent y retourner. Mais je leur dis aussi, droit dans les yeux, que la France aussi est une terre juive.
Merci Louis Sarkozy, voix de droite d'RMC ce matin. Demain, à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant avec à la une du journal de 8h, ces blocages dans le sud-ouest. En attendant, la ministre de l'Agriculture qui se rendra sur place ce matin, elle est attendue à Toulouse. Et nous sommes déjà en direct d'un de ces points de blocage, ce sera dès le début du journal. Et puis la météo, doux mais perturbée dans le sud, attention. Et puis juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre qui est déjà à mes côtés. Emmanuel, les Européens se sont mis d'accord pour taxer les petits colis.
Oui, et ça n'est que le début de la taxation de ces petits colis.
Et ça va commencer le 1er juillet prochain. Ça commence très vite, vous nous le dites dans un instant. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez être couvert de cadeaux ce matin encore, des cadeaux high-tech de folie, eh bien vous avez encore le temps de vous inscrire. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16. Et le gagnant sera en direct avec moi dans 20 minutes. 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59 dans une poignée de secondes. Il sera 8h et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Du journal sur RMC de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture attendue de pied ferme ce matin au sud de Toulouse pour rencontrer les agriculteurs mobilisés contre les abattages systématiques de troupeaux en cas de dermatose nodulaire. RMC est sur place. Les conséquences en France au lendemain de l'attentat antisémite qui a fait 15 morts en Australie. Vous verrez que la sécurité est renforcée près des lieux de culte en cette période de fête. Et une demande de grâce adressée au président algérien pour lui demander de libérer le journaliste français Christophe Glaise emprisonné en Algérie.
La mobilisation des agriculteurs prend encore de l'ampleur ce matin.
Oui, avec une trentaine de points de blocage désormais recensés, un nouveau depuis hier soir près de Bordeaux et toujours sur l'autoroute A64 qui est fermée sur une centaine de kilomètres entre Tarbes et le Pays Basque et bloquée donc au sud de Toulouse, à Carbonne précisément, au même endroit que lors de la dernière grande crise agricole. C'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC. Cassandre Brault, envoyée spéciale, et c'est là que va se rendre la ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour défendre la position du gouvernement qui est d'étendre la vaccination, mais de continuer les abattages. Les agriculteurs que vous rencontrez ce matin, ils vous disent quoi ?
Oui, les agriculteurs n'ont pas beaucoup d'espoir que la visite en Occitanie de Annie Genevard débloque la situation. Les agriculteurs présents ici à Carbonne, comme les syndicats et notamment la coordination rurale et la confédération paysanne, attendent de la ministre qu'elle revienne sur le principe de l'abattage systématique des troupeaux. Ils réclament l'abattage des animaux malades seulement et une large vaccination des 16 millions de bovins français contre la dermatose nodulaire. Parmi ceux qui ont passé la nuit ici, Laurent Abad dit éleveur d'une soixantaine de vaches.
C'est pas une solution d'abattre des troupeaux entiers. Faut trouver une autre solution. Voilà, donc changement de protocole. Si elle fait des propositions, on va attendre qu'il y ait de l'effet et après on envisagera de partir. Tant qu'il n'y aura pas des actes concrets, on ne bougera pas, ça c'est sûr. Faut toujours avoir un peu d'espoir. Mais bon, le combat va être compliqué.
Le blocage est toujours bien en place ici sur l'autoroute A64. Aucune voiture ne circule. Les agriculteurs s'organisent, se relayent. De nouveaux chauffages sont arrivés hier soir et des sapins de Noël sont là. Ils l'affirment, ils sont prêts à passer les fêtes de fin d'année ici, s'il le faut.
Il y a cette colère que vous racontez ce matin en direct pour RMC. Cassandre Brault, s'ajoute le calendrier européen, le traité du Mercosur censé être signé cette semaine à Bruxelles, mais le compte n'y est pas, estime le gouvernement français qui demande donc un report des échéances. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur RMC à propos de la traque de Mohamed Amra. Vous vous souvenez de son évasion de prison il y a un an et demi. Deux agents pénitentiaires étaient morts ce jour-là au péage d'Incarville. Mohamed Amra avait été retrouvé 9 mois plus tard en Roumanie grâce à un témoin privilégié qui a aiguillé les enquêteurs. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Vous nous révélez donc cette information. Vous nous dites que ce témoin a livré sous X des informations très importantes sur la localisation notamment de Mohamed Amra.
Oui, lorsque ce témoin majeur se manifeste, cela fait plus de 7 mois que Mohamed Amra est en cavale. Les policiers multiplient les pistes de recherche pour le retrouver en région parisienne, en Espagne, mais aussi en Normandie, sa région natale. Et ce témoin, entendu sous X, vient révéler aux enquêteurs qu'il a vu la mouche dans les rues de Rouen en train de discuter avec un autre homme à l'entrée d'un kebab. Cela confirme l'important travail de téléphonie mené jusque-là par les enquêteurs. Mohamed Amra est en cavale, mais jamais loin de chez lui. D'après ce témoin, quelques jours avant sa déposition, Amra était même à Évreux pour un échange de drogue. Selon nos informations, ce témoin clé est un proche, voire un très proche d'Amra, puisqu'on nous explique qu'il connaît l'environnement personnel de la mouche, les compagnes officielles et les officieuses du fugitif. L'homme, c'est même le surnom que Mohamed Amra donne à son jeune fils. Plusieurs sources proches de l'enquête nous précisent que ce témoin a été en mesure de lister les noms de potentiels complices de la mouche. 4 d'entre eux sont aujourd'hui mis en examen. Et au regard de ces éléments, l'audition de ce proche d'Amra s'est faite sous X, une procédure rare pour protéger un informateur qui prend de très gros risques en témoignant.
Information, révélation, RMC signé Pierre Bazin ce matin. Pas cours, il n'y a pas cours ce matin au collège Champollion de Dijon. Pourquoi ? Parce que ce collège a été touché par un incendie sans doute criminel. Durant le week-end, le préfet évoque un possible lien entre cet incendie et le narcotrafic. Le collège se trouve dans le quartier sensible des Grésilles à Dijon avec des dealers tout autour, expliquait une enseignante un petit peu plus tôt ce matin sur RMC. Il sera fermé pour plusieurs mois, la faute, il faut des travaux. Les cours reprendront seulement jeudi, mais alors à distance, on ne sait pas encore ce qui se passera à la rentrée de janvier. Le président algérien va-t-il intervenir dans l'affaire du journaliste français Christophe Glaize ? À nouveau condamné, c'était au début du mois, à 7 ans de prison pour ses contacts avec des personnes liées à un mouvement séparatiste dans le cadre d'un reportage sur un club de foot. Alfred Orange, pour RMC, sa mère vient d'adresser une demande de grâce au président algérien.
Oui, dans cette lettre, Sylvie Godard fait appel, je cite, à la haute bienveillance du président algérien pour libérer son fils. La mère de Christophe Glaize écrit d'abord que la condamnation en appel du journaliste à 7 ans de prison est un choc immense pour elle et sa famille. Cette sentence, poursuit-elle, nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de mon fils. Une lettre teintée d'émotion où la maman du journaliste sportif argumente aussi sa demande. Nulle part dans ses écrits, vous ne trouverez trace d'un quelconque propos hostile à l'Algérie et à son peuple. Un courrier qui intervient au lendemain de la demande des avocats de Christophe Glaize de former un pourvoi en cassation contre sa condamnation dans le but d'obtenir un nouveau procès.
Voilà pour cette demande de grâce avec Alfred Orange. Ce matin pour RMC.
8h05 sur RMC. C'est un jour de deuil qui a commencé en Australie.
Oui, au lendemain de l'attaque terroriste et antisémite qui a fait 15 morts, dont un Français de 27 ans. C'était hier matin sur une plage mondialement connue de Sydney, perpétrée par un père et son fils. Père abattu par la police, fils qui avait déjà fait l'objet d'une enquête pour ses liens avec Daesh. C'est ce que disent les médias australiens ce matin. Attaque commise le jour de la fête juive de Hanouka. Sécurité immédiatement renforcée près des lieux religieux en France. Ah, d'ailleurs, Julie Brault.
Oui, seulement quelques heures après l'attaque sanglante contre la communauté juive à Sydney, Laurent Nunez a demandé hier à tous les préfets de France de renforcer la présence des forces de l'ordre autour des lieux de culte juifs. Dans ce télégramme adressé également aux responsables de la police et de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur souligne, je cite, la prégnance de la menace terroriste et des tensions au plan international qui exigent, dit-il, le maintien d'une extrême vigilance. Une consigne qui intervient deux jours après l'envoi d'un premier télégramme dans lequel Laurent Nunez appelait déjà à une surveillance accrue autour des célébrations juives de Hanouka qui se déroulent jusqu'au 22 décembre avant de lister les nombreuses attaques qui ont visé plusieurs lieux de culte cette année, notamment la dégradation de 3 synagogues et du mémorial de la Shoah à Paris.
Sécurité renforcée aussi près des lieux de culte chrétiens à 10 jours maintenant de Noël. Tiens, à l'approche des fêtes, on saura ce matin si les salariés du Louvre se lancent ou pas dans une grève reconductible juste avant les vacances pour dénoncer la vétusté du musée et demander plus de moyens. Ils doivent se réunir en assemblée générale à 9h donc ce matin. Il y a un grand changement depuis ce week-end dans les trains. Certains de vous l'ont peut-être déjà remarqué, la numérotation des places a été modifiée dans les TGV Inouï. Des centaines d'agents SNCF ont changé pas moins de 123 000 étiquettes durant le week-end. Alors désormais, si on monte dans un train, Rachel Sadodine, eh bien on aura un numéro de place à trois chiffres.
Oui, si vous avez déjà pris un train Ouigo, les trains low cost, eh bien en fait ce sera exactement la même chose. Concrètement, si vous êtes à la place 332, il faudra monter dans la voiture 3 et choisir le siège numéro 32. Le but, selon la SNCF, c'est d'éviter aux voyageurs de se tromper de voiture. Le fameux « Excusez-moi, monsieur, vous êtes à ma place ?» Plus de ça, et puis il y aura aussi un autre avantage, vous pourrez directement savoir si votre place est située en haut ou en bas du train. Toutes celles numérotées au-dessus de 40 sont à l'étage. Mais dans les trains à double rame, là, ça risque de coincer un petit peu. Le numéro 123, il pourra aussi bien désigner la place numéro 23, située en voiture 1, ou bien alors en voiture 11. Pas de panique, pas de panique.
Mais oui, ça m'inquiète beaucoup, je suis d'accord, j'ai la même réaction qu'Emmanuel.
Ils sont pas capables de mettre 4 chiffres.
Là, je comprends plus.
Alors, c'est pas la peine de mettre 4 chiffres, puisque des fois, il y a des trains avec une seule rame, et là, ça n'aurait pas été nécessaire. Mais du coup, pour régler le problème, c'est simple, il y aura quand même le numéro de voiture à l'ancienne indiqué sur les
billets. Bon, vous nous rassurez.
Mais donc, il y aura peut-être deux places 123 dans un même train. Voilà.
Non, trop angoissant.
Alors, je vous donne les trois premiers de la Ligue 1 en foot à l'issue de la 16e journée de championnat qui s'est terminée hier soir par la victoire de Marseille 1-0. C'était contre Monaco. Marseille 3e, Paris 2e, et c'est Lens qui passera les fêtes en tête, leader grâce à sa victoire 2-0 hier contre Nice.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08. On part au 32-16. Vous êtes nombreux à nous appeler pour témoigner sur cette crise agricole. Et c'est votre cas, Cédric. Bonjour, Cédric.
Bonjour, Apolline.
Cédric, agriculteur à Draché en Indre-et-Loire. Vous êtes vous-même éleveur?
Oui, éleveur de porc.
Éleveur de porc. Cédric, on sent le monde agricole divisé, perplexe. Certains qui sont littéralement opposés à tout abattage. D'autres qui, au contraire, disent qu'il faut abattre. Et ce sont d'ailleurs les consignes aujourd'hui, les consignes sanitaires du gouvernement, mais que partage la FNSEA. Quelle est votre position à vous, Cédric?
Moi, la position, c'est déjà d'être en soutien avec les agriculteurs qui sont concernés. Déjà, premièrement, parce que en tant qu'éleveur, je sais que ça doit pas être drôle d'avoir son troupeau abattu. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un mal nécessaire. Et puis, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont vécu avec la tuberculose, la brucellose par le passé. Ils ont éradiqué ces maladies-là par l'abattage des troupeaux. Aujourd'hui, pour vos auditeurs, j'aimerais quand même rappeler comment se transmet cette maladie. Cette maladie, c'est une maladie qui est dite vectorielle, qui se déplace non pas par les contacts entre animaux, mais par des piqûres d'insectes qui piquent les animaux, qui ont accès au sang et qui vont repiquer d'autres animaux et transmettre la maladie par ce biais-là.
Donc il suffit pas de les isoler.
Il suffit pas de les isoler parce que les personnes qui disent pour faire, je sais pas, quel est leur but, si c'est pour faire de la récupération syndicale ou pour montrer qui a la plus grosse ou...
On sent en ce moment qu'il y a quand même aussi une vraie concurrence des colères et une concurrence des syndicats avec la FNSEA qui est plutôt en soutien de la décision sanitaire qui a été exprimée par le gouvernement et la coordination rurale à l'inverse, qui après avoir d'abord été d'accord avec cette stratégie, aujourd'hui la conteste.
Oui, malheureusement, et puis c'est malheureusement sur ce sujet-là que faut pas aller dans le sens du vent. Faut être solidaire, faut être solidaire pour la filière bovine française pour que demain elle existe encore. C'est une maladie aujourd'hui qui peut aller jusqu'à décimer 15% des animaux malades, enfin des derniers troupeaux. Et après, il y a des causes de comorbidité, des avortements, des pertes de production, notamment en lait, qui peuvent aller jusqu'à 45%. Et aujourd'hui, de dire qu'on va vivre avec cette maladie, ça veut dire vivre avec aussi ce risque de comorbidité, de perte de production.
Je trouve particulièrement intéressant, Cédric, la mémoire que vous nous transmettez ce matin. C'est-à-dire aussi ce que vous dites sur ce que nos anciens ont été obligés de faire, notamment face aux maladies du début du siècle. Merci, Cédric, en tout cas, d'avoir témoigné au 32-16 sur RMC. Toutes ces voix agricoles que l'on entend ce matin. Il est 8h11 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et bonjour Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, les petits colis, on n'arrête pas d'en parler, les petits colis importés dans l'Union européenne, eh bien les Européens se sont mis d'accord cette nuit, ces petits colis seront bien taxés.
Oui, effectivement, ils seront taxés 3 euros, petits colis qui, 9 fois sur 10, arrivent de Chine, échappent trop souvent aux taxes auxquelles ils devraient normalement être soumis, ne sont pas aux normes de qualité européennes et dont le processus de fabrication et de livraison n'est pas très écologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette taxe permettra de faire la transition avec un autre dispositif qui entrera en vigueur, lui, en juillet 2028, donc 2 ans plus tard. Et là, il n'y aura plus de limite de prix, 150 euros, pas 150 euros. Tous les produits qui entrent en Europe seront soumis au même droit de douane.
Oui, parce qu'il faut bien l'expliquer, c'est que cette taxe de 3 euros, elle vient dans un contexte global où, on le sait, les plus petits colis ont été exonérés de taxes ou de droits de douane. Cette taxe, donc 3 euros, ça ne remplace pas la taxe sur les petits colis qui est discutée juste en France, là.
Exactement. Cette taxe donc européenne de 3 euros s'ajouterait à la taxe qui est discutée en France dans le projet de budget 2026 si la mesure est adoptée, et elle a de fortes chances de faire l'objet d'un consensus. Et donc, elle pourrait se cumuler à la taxe européenne. On n'aurait pas de problème vraiment de réglementation, de loi, puisque la taxe française s'est considérée comme des frais de gestion, alors que la taxe européenne s'est considérée comme des droits de douane. Alors, son montant a été fixé à 2 euros par le gouvernement. Les députés ont dit OK, puis les sénateurs ont dit non, 2 euros, c'est pas assez, il faut 5 euros. Donc, on attend de voir ce que va donner le retour du budget à l'Assemblée nationale, mais vraisemblablement, ce sera entre 2 et 5 euros. Et à partir de novembre 2026, ces frais de gestion seront étendus à toute l'Europe entre 2 et 4 euros. Donc, vous voyez que on ne va cesser d'accumuler les nouvelles taxes, en fait, sur ces petits colis.
Donc, on aurait 3 euros plus 2 à 4 euros. Au final, comment toutes ces taxes vont se répercuter sur le prix et sur les consommateurs?
Alors, il y a quelques subtilités. La taxe européenne, elle est basée sur les catégories de produits. Donc, par exemple, si vous achetez 2 chemises, la plateforme, puisque c'est elle qui paye, paiera uniquement 3 euros, une seule catégorie de produits. Si, en revanche, vous achetez 1 chemise et 1 casserole, là, vous avez 2 catégories de produits, donc vous paierez 2 fois 3 euros, vous paierez 6 euros. Si la taxe française est à 2 euros et que vous avez 2 produits, ça fera 4 euros. Donc, imaginons votre colis, votre casserole et votre chemise qui vous coûte à peu près 30 euros, bah, ça vous ferait quand même 10 euros de plus. C'est loin d'être négligeable. Alors, en moyenne, on a quoi? En moyenne, les gens commandent 25 colis par an avec 7 ou 8 articles par colis pour un montant moyen de 50 à 70 euros. Au final, ça peut augmenter de 50% le prix du colis. Alors, toute la question, c'est comment les plateformes vont répercuter ou non ces taxes sur le consommateur. Il y a des simulations qui ont été faites. Si c'est la moitié de la hausse qui est répercutée, ça pourrait faire baisser le flux d'échange de 10 à 20%. Donc ça aurait quand même un impact significatif sur les achats.
Merci Emmanuel Le Chypre, 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, notez que l'invité du face-à-face, ce sera la députée européenne Marion Maréchal. Juste après ça, c'est comme chaque matin, Nicolas Canteloup qui sera avec nous avec ses imitations face à Canteloup à 8h50. Et puis Mathieu, les réactions nombreuses sur le standard et l'application RMC ce matin, ainsi que le WhatsApp. Et c'est principalement sur la question agricole. Que
Ah oui, la mobilisation des agriculteurs qui fait débat, hein, d'ailleurs, disons-le. Vous êtes divisés sur la question comme le sont les agriculteurs eux-mêmes. Frédéric nous écrit: pourquoi dans d'autres pays ne font pas comme nous pour cette maladie? Nous, on tue les bêtes et les autres les mettent à l'écart, les malades. Pourquoi ça se passe comme cela? On veut tuer les paysans français, nous dit Frédéric ce matin sur le WhatsApp RMC. J'ai Julien qui nous dit 1000 gugus radicalisés de la coordination rurale type RN et d'autres de la Confédération paysanne type LFI pour foutre le bordel, les cassos complotistes d'extrême droite main dans la main avec les casseurs anticapitalistes d'extrême gauche. Des escrocs, dit Julien ce matin sur le WhatsApp RMC. Il faut arrêter de plaisanter sur les vrais agriculteurs qui se battent tous les jours pour sauver leurs exploitations. Voilà ce qu'écrit Geoffrey. La FNSEA, ils sont du côté du gouvernement et de l'Europe, toujours plus d'argent dans leur poche. Voilà ce que pense Geoffrey. Et puis Méré qui nous dit: le gouvernement, ne sachant rien et par mesure de précaution, abat un troupeau, même les vaches vaccinées, comme dans le Doubs, nous dit Méré.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Hello you. Yeah. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est la dernière semaine avant Noël, celle où on prépare les cadeaux. Les enfants attendent avec impatience le Père Noël, ce monsieur farceur, âgé et barbu, qui rentre chez vous en pleine nuit parce qu'il aime vos enfants. Hein, il rentre dans la chambre des petits, il les regarde dormir, non, tellement attendri. Puis il dépose des jouets sous un conifère mort décoré par une mère de famille en burn-out. Voilà, c'est la tradition.
Rien,
mais je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Vous savez que les enfants peuvent même téléphoner au Père Noël. Moi, jamais mon gamin, il fait ça. Jamais il appelle un vieux au téléphone qui lui dit « T'as été mignon cette année !» Tu sais, je te regarde souvent de là où je suis. En plus, ça coûte 3 euros la minute. Il a trouvé une bonne combine, Gabriel Matzneff.
Hein. Oh non.
T'es au team. Tu aimes les films avec des gladiateurs. On va raccrocher, monsieur. L'actu, la crise agricole, les abattages de troupeaux de bovins liés à la dermatose nodulaire ravivent la colère des agriculteurs. Vous savez, quand la bête est malade, on abat tout le troupeau. Là, la situation est tellement grave que même la vache qui rit, elle fait la gueule. C'était la blague de notre calendrier de l'Avent du Nord. Vive Noël! Alors, je suis pas un spécialiste en dermatose nodulaire contagieuse, donc je suis allé me renseigner sur Facebook. Parce que figurez-vous que tous les gens qui étaient médecins pendant le Covid, ils sont tous devenus vétérinaires. Du coup, on a plein d'informations. Vous savez que c'était Bill Gates? La dermatose nodulaire, c'est Bill Gates, en fait. Il veut équiper nos vaches avec de la 5G parce qu'il est juif. On apprend des trucs sur Facebook. C'est du délire. Je veux pas inquiéter les éleveurs, mais on a le même président que pendant la crise du Covid, hein. Donc, il va débarquer à la télé. Française, français. Nous sommes en guerre contre la dermatose nodulaire contagieuse. J'ai donc reçu la ministre de la Culture. Cette sale conne ! Brigitte, calme-toi. Calme-toi. Je propose que chaque soir à 20h à nos fenêtres, nous applaudissions nos vétérinaires. Soutenons nos vaches. Les vaches, c'est surtout ces connasses de féministes. Bande de grosses à cheveux bleus. Brigitte, j'avais repris 4 points dans les sondages, tu fais chier. Mais elle est dure en ce moment.
Hein. Alors
pour Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, l'abattage de tout l'élevage, c'est la seule solution si une bête est malade. Heureusement qu'elle n'a pas été ministre de la Santé pendant le Covid. T'imagines, t'as un collègue qui tousse à côté de toi. Et Genevard qui débarque. Abattez-les tous ! L'enfer.
Anne Hidalgo a échoué, Arnaud, à prendre la tête du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU.
Oui, au Commissariat aux réfugiés, ils ont visité Paris, ils ont vu l'état de la ville, ils ont fait... Je sais pas, hein. On va plutôt nommer l'ancien président irakien. Son pays est en meilleur état. C'est vrai qu'ils l'ont nommé lui. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire à partir du mois de mars, Anne Hidalgo? Déjà, faudra faire un bilan de compétences chez France Travail. Alors, Madame Hidalgo, je vois sur votre dossier que vous aimez les travaux, vous détestez les voitures et vous avez une passion pour enlaidir les rues. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai maire de Grenoble, ça vous tente? Ah non, tout est déjà cassé là-bas, en plus, c'est nul.
La publicité Intermarché mettant en scène un loup végétarien qui se fait des amis est un succès.
Bah oui.
Pas mal.
Je fais un peu comme vous. Les gens me connaissent. Tout le monde fond pour ce loup qui devient végétarien pour avoir des amis, alors que tout le monde sait que les végétariens n'ont pas d'amis. Mathieu Béliard. Mathieu Béliard en sait quelque chose. Hein.
Mathieu, merci de m'avoir invité à dîner, mais en fait, je mange pas de génocide de bœuf, en fait. Mais j'ai fait un tataki de bœuf en basse température au père de jus oxydé et gel translucide de terroir bovin. Ça m'a pris 7 heures et j'ai dû le faire avec Thomas Pesquet, tellement c'est compliqué. Alors tout le monde sait que les loups ne sont pas végétariens en plus. Ils mangent les mers grands. Hein,
oui.
François Bayrou le disait, si les meutes de loups n'avaient pas été éradiquées en France, ils auraient pu bouffer nos grands-mères et il y aurait moins d'enculés de boomers et de retraites à payer. Donc, réintroduisons les loups dans les centres-villes avec des vieux comme à Nice ou à Cannes.
Voilà, bien sûr.
Alors, un jeune loup qui fait tout pour être inoffensif et populaire, Bardella va déposer une plainte pour plagiat. Et tout ça va relancer la mode des pubs de Noël.
Oui.
Un miracle se produisit au pied du sapin. Une poupée devint vivante.
Oh mon Dieu, c'est merveilleux! Je suis en vie! Je sens l'odeur du sapin! Je peux marcher! Je suis devenue une vraie petite fille! C'est le miracle de Noël!
Je la sens pas bien cette blague.
Oh, ma poupée chine qui parle!
Oh,
t'es au team, il faut que je te laisse! Ma petite fille, t'as été sage cette année?
Ce court-métrage féerique vous a été présenté par le BHV. Le BHV, 3 lettres pour le plus beau des Noëls. Allez, profitez bien de la magie de Noël.
À demain. Merci Arnaud, et on est avec Christophe qui a gagné aujourd'hui.
Bonjour. RMC vous offre un fabuleux Noël.
What? Bonjour Christophe.
Bonjour Apolline.
Christophe, chargé clientèle. Alors j'avoue, je vais avoir du mal à prononcer le nom de votre village. Je propose que vous le disiez vous-même.
Alors, je vais le raccourcir volontairement. Donc, c'est Ilkirch. Ilkirch à côté de Strasbourg.
Ilkirch.
Ah, mais j'ai joué là-bas.
Grafenstaden à côté de Strasbourg.
C'est ça, ouais.
Félicitations en tout cas, Christophe. On va ouvrir le calendrier.
Le 15.
On est le 15. Attention, on y va. Ouais, j'ai toujours peur d'ouvrir pas la bonne case. Attention. Et ce serait dommage, Christophe, parce que ce matin, vous, oh là là, vous avez gagné une Smart TV QLED 4K de 65 pouces. Ça fait 165 cm. Vous allez pouvoir nous regarder en très, très, très grand écran.
Génial. Valeur
600 euros. Bravo, bravo Christophe.
Merci beaucoup, merci. Je suis super content, merci.
Merci d'avoir écouté RMC et d'avoir joué avec nous. Félicitations pour votre fidélité. Il est 8h24. Dans un instant, le face-à-face, ça se passe sur RMC et BFM TV. Et mon invité, c'est Marion Maréchal. 8h24, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal. Vous êtes présidente du parti Identité Liberté que vous avez créé et vous êtes députée européenne. On va en venir à la colère agricole, la ministre de l'Agriculture qui est attendue dans le sud-ouest d'un instant à l'autre. Mais Marion Maréchal, d'abord l'horreur en Australie. 15 morts et au moins 40 blessés dans un attentat terroriste qui visait des juifs. Les fêtes de Hanouka, fêtes juives des Lumières sur une plage. L'antisémitisme encore, est-ce que vous y voyez un lien avec la montée de l'antisémitisme dans le reste du monde ? Et d'abord, votre réaction ?
Bah évidemment, un sentiment d'horreur, d'autant plus que lorsqu'on est français, tout de suite, ça fait ressurgir des souvenirs morbides, hein, nous-mêmes ayant été victimes de ce djihadisme. Djihadisme qui est aujourd'hui une menace mondiale, qui n'a jamais été aussi aiguë. C'est 56 000 morts en 10 ans, hein, le djihadisme. 305, je le rappelle, en France. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui frappe tout particulièrement, disons-le, l'Occident au sens large, hein, puisque les islamistes nous voient comme un bloc civilisationnel, comme les mécréants, finalement, à abattre. Ils veulent pas seulement nous détruire, mais nous convertir de force, d'une certaine manière. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, les mêmes causes entraînent les mêmes effets de Paris à Sydney. C'est-à-dire que nous sommes face à des pays aujourd'hui qui accueillent de manière très importante des populations immigrées venant d'un certain nombre de pays musulmans. Parmi cette population immigrée, on trouve une part d'islamistes. Et parmi ces islamistes, on trouve des gens qui passent à l'acte de manière violente. Et donc, ça devrait nous appeler à une prise de lucidité et à une rupture radicale avec les politiques d'immigration menées.
Pour vous, il s'agit d'une guerre de civilisation ?
Ah bah indéniablement, d'ailleurs c'est dans les guerres de civilisation, vous savez, c'est l'ennemi qui vous désigne et l'ennemi islamiste nous a désigné comme un ennemi à abattre ou à convertir, et c'est un sujet d'autant plus grave qu'aujourd'hui c'est vos confrères du Point qui l'avaient relevé à la suite d'un sondage IFOP qui avait été fait sur l'état de radicalité, si je puis dire, de la communauté musulmane en France. Nous avons à peu près 142 000 personnes en France qui ont des sympathies pour les courants djihadistes. C'est-à-dire 142 000 personnes en France, c'est une armée. Il faut imaginer ce que
vous avez traduit les pourcentages de cette étude en nombre. Donc vous estimez qu'il y a 142 000 personnes en France qui sont des djihadistes en puissance. C'est comme ça que vous le dites ?
Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos confrères du Point qui en effet sont partis de ce chiffre terrifiant qui fait que 3% aujourd'hui des musulmans en France ont des sympathies pour le djihadisme. Je rappelle que c'est 42% également des jeunes de 18 à 25 ans qui ont une sympathie pour un courant islamiste au sens large. Donc il y a quand même aujourd'hui un phénomène qui induit que non seulement il y a des musulmans de plus en plus radicaux dans notre pays, mais surtout plus ils sont jeunes, plus ils sont radicaux, ce qui indique que les problèmes sont devant nous finalement.
Il y a parmi les victimes en Australie un jeune français de confession juive, Dan El-Kayam, qui a donc été abattu sur cette plage. C'est donc une nouvelle victime française du terrorisme. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui par rapport à ces Français de confession juive qui, pour certains, estiment qu'ils n'ont plus leur place en France, mais qui, en même temps, quand ils voient que, au bout du monde encore, l'antisémitisme touche, ne savent plus forcément où se rendre.
Ah bah, je comprends leur inquiétude, leur désespoir, voient parfois leur besoin de partir, ne se sentant plus protégés en France, puisque de fait, il me semble que toutes les mesures ne sont pas prises aujourd'hui pour assurer la sécurité non seulement de nos compatriotes juifs, mais plus largement des Français en général. Quand je vois qu'il y a encore dans notre pays des fichiers pour islamistes clandestins qui sont sur le sol français, des fichiers pour islamistes étrangers qui sont maintenus sur le sol français, quand je vois que nous n'avons même pas été capables de déchoir de leur nationalité des djihadistes qui étaient partis sur des terrains de guerre tels que celui de la Syrie, quand je vois qu'une fois de plus nous ne prenons pas toujours les mesures de précaution en matière, une fois de plus, d'immigration pour maîtriser ce flux venant de pays à risque, oui, je comprends qu'il y ait cette inquiétude.
Donc vous estimez que globalement, l'immigration est un risque ?
Ah bah je considère qu'indéniablement aujourd'hui l'immigration dans notre pays est un des terreaux privilégiés de recrutement bien sûr du djihadisme dans notre pays.
Je précise que les deux terroristes présumés, un père et son fils en Australie, étaient de nationalité australienne. Alors le père était arrivé en Australie et avait obtenu la nationalité australienne. Son fils était, semble-t-il, né en Australie, 24 ans. Le père a été abattu. Le fils est blessé, mais semble-t-il conscient. Il était connu des services de police, notamment pour des liens avec Daesh. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui vous estimez que tout, c'est-à-dire qu'il aurait été considéré en France comme un fichier S et peut-être même pas resté sous fichier S, puisque l'enquête, certes, qui avait duré 6 mois sur cet individu, avait conclu qu'il avait eu des liens avec Daesh, mais pas de nature à présenter une menace.
Bah, ça interroge d'ailleurs plus largement, c'est vrai en Australie, c'est vrai en France, notre politique d'acquisition de la nationalité, puisque là encore, on est face à des personnes qui étaient fichées par les renseignements. Moi, je défends depuis longtemps déjà la détention administrative des fichiers S et préventive des fichiers S, le temps de faire un état des lieux sur la situation de chacun. Est-ce que ce sont des clandestins et est-ce que ce sont des étrangers et auquel cas ils doivent retourner dans leur pays d'origine? Est-ce que ce sont des binationaux et auquel cas on devrait pouvoir en effet se donner les moyens de les déchoir de leur nationalité parce qu'ils représentent des bons finalement à retardement sur le sol français, parce qu'aujourd'hui en effet nous avons des gens qui sont prêts à passer à l'acte et dont les services de renseignement ne parviennent
mais
pas systématiquement.
Est-ce que ça veut dire que chaque soupçon doit être suivi d'une sorte de surveillance accrue?
Bah c'est ce qu'on appelle un principe de précaution. Si vous voulez qu'on est capable de l'appliquer en matière écologique, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de l'appliquer en matière de djihadisme, sachant que c'est une menace existentielle pour la sécurité de la nation, qui menace la vie de nos compatriotes, et qu'à ce titre, quand on sait qu'on a des profils dangereux, dont tous d'ailleurs n'ont pas la légitimité à être sur le sol français, oui, il faut pouvoir faire un moratoire finalement sur la politique d'immigration et traiter de manière exceptionnelle ces profils-là pour apporter une réponse politique globale.
Comment on fait
et durable
pour qu'il n'y ait pas d'amalgame? Est-ce que vous redoutez qu'il puisse y avoir un amalgame?
Moi, je pense que les Français, y compris de confession musulmane, font parfaitement la différence dans nos propos entre ceux qui aujourd'hui sont intégrés dans la société française et d'ailleurs condamnent sans aucune ambiguïté ce qui se passe de ce point de vue-là, et aujourd'hui la menace islamiste réelle, qui est une menace, il faut quand même oser le dire, de moins en moins minoritaire. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, quand 42% des 18 à 25 ans musulmans dans notre pays ont des sympathies pour des courants islamistes, si on n'est pas capable, si vous voulez, de nommer...
C'est cette étude de l'IFOP.
Absolument. Si on n'est pas capable de, et puis je pourrais vous donner plein d'autres exemples sur l'explosion, par exemple, du port du voile, et voilà. Et il faut quand même être capable de regarder cette réalité en face pour lui apporter une réponse. Et la réponse, elle passe, pardonnez-moi, par la question de la loi du nombre, bien sûr. Parce que plus, évidemment, vous avez des populations.
C'est-à-dire quoi, la loi du nombre?
Bah, la loi du nombre, c'est que si vous espérez pouvoir intégrer et même assimiler des populations, encore faut-il que ces populations dans un certain nombre de territoires soient au contact de la population native pour pouvoir s'intégrer à cette culture, précisément, qui est censée être la culture de référence. Si sur des pans entiers du territoire, vous n'avez plus qu'une politique multiculturelle avec des communautés.
C'est-à-dire quoi, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de ghetto, et donc des communautés qui vivent de manière juxtaposée, mais sans se mélanger.
C'est un fait absolu. Voilà, je veux dire, plus personne aujourd'hui ne peut le contester, et ce qui fait que nous avons des viviers de recrutement privilégiés, malheureusement, de la part de ces islamistes avec des influences étrangères sur lesquelles je ne m'étends pas, mais qui sont bien connues.
On met beaucoup en avant depuis hier cette image inouïe de ce héros qui a sauté contre le terroriste pour le désarmer avec un courage inouï. Il s'agit d'Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits de 43 ans, lui-même musulman. C'est important de le signaler ce matin.
Et qui est blessé d'ailleurs. Hein.
Et qui est blessé, qui a pris visible, semble-t-il, 2 balles.
2 balles, en effet. Donc c'est un acte absolument admirable. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, heureusement d'une certaine manière, que dans le flux des personnes que nous accueillons, il y a des gens qui se comportent bien et qui se comportent même de fait là en héros et qui sont des gens, bien sûr, tout à fait admirables. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en parallèle de cet homme courageux, il y a les deux autres. Et donc, d'une certaine manière, une fois de plus, le principe de précaution doit nous appeler à remettre la politique d'immigration en général, j'ai envie de dire presque malheureusement.
Tant pis pour les Ahmed Al-Ahmed.
D'accord, mais malheureusement d'ailleurs aussi, vous avez raison pour ce monsieur. Mais en tant que responsable politique, nous avons d'abord un devoir de responsabilité vis-à-vis de nos populations. Et quand on sait que ce risque existe aujourd'hui dans la politique telle qu'elle est menée, eh bien il faut être capable de prendre des mesures importantes et radicales.
En France, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a demandé le renforcement de la sécurité auprès des lieux de culte, immédiatement les lieux de culte juifs, avec les fêtes de fin d'année juive de Hanouka, mais il a aussi évoqué la question du renforcement de la sécurité des églises le soir de Noël. Il parle d'une tension terroriste aiguë en France. Est-ce que les mesures vous paraissent suffisantes?
C'est toujours le même sujet, si vous voulez. Nous sommes en train de rentrer dans une logique d'un pays ultra comment dire, ultra policier, ultra sécuritaire, de fait, puisque nous avons cette menace aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on prenne le mal à la racine. Je vous en ai parlé longtemps, mais c'est vrai que moi, je vais avec mes petites filles, comme beaucoup de parents, sur les marchés de Noël. Les marchés de Noël aujourd'hui sont des camps retranchés. Ça veut dire qu'avant de voir le sapin, on passe devant les plots en béton, avant de passer sous les guirlandes, on passe sous les portiques, et avant de rencontrer le Père Noël, on rencontre des soldats français avec des armes de guerre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y habitue. Ça veut dire que ça devient normal, alors que c'est absolument infernal. Donc, de fait, on prend ces mesures en bout de course parce qu'on n'est pas capable de traiter le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 1, la question de la politique d'immigration, 2, la question des fichiers sur le sol français, 3, la question de la politique de la nationalité.
Les tensions agricoles sur le terrain. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue ce matin à Toulouse et dans le sud-ouest, qui est vraiment le cœur aussi de la contestation aujourd'hui, avec une question. Le monde agricole est lui-même d'ailleurs divisé. Faut-il vacciner? Faut-il abattre un troupeau entier lorsqu'une bête est malade? Quelle est votre position aujourd'hui, Marion Maréchal?
Alors déjà, il faut comprendre que cette crise agricole qui devient maintenant annuelle, d'ailleurs, parce que chaque année, nous avons des grandes contestation, et souvent d'ailleurs bien légitime, s'inscrit dans une région qui a particulièrement souffert ces derniers mois, puisque l'Occitanie a eu en cumulé le sujet de la crise climatique, le sujet de la crise viticole avec les droits de douane américains. Je rappelle que cette semaine, nous traitons le sujet du traité de libre-échange avec le Mercosur.
On va y venir, mais d'abord sur bien cette sûr. Question immédiate. On vaccine, on vaccine pas, voilà. on abat pas.
Et je pose le contexte général parce que ça me semble important. Sur la question de fond, qui est la question de la procédure finalement, ou du processus sanitaire. Moi, je suis pas vétérinaire et je suis pas épidémiologique, vous l'avez bien compris, donc je suis pas en mesure de vous dire quelle est aujourd'hui la procédure la plus légitime ou la plus efficace. Évidemment que si il existe une procédure assouplie qui permet d'éviter l'abattage de troupeaux entiers, j'espère d'ailleurs que le gouvernement se penche sur cette option et qu'elle est efficace, j'espère qu'elle pourra être prise en compte. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie qui peut avoir des impacts très lourds, à la fois en termes de mortalité sur notre cheptel de 12 millions de bovins, mais aussi en termes de productivité, qui a la menace de la baisse du prix, qui a la menace du risque de blocage des importations, des exportations, pardon. Donc il faut prendre ce sujet à bras le corps. Moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est la méthode gouvernementale. C'est-à-dire que cette maladie, elle est apparue sur le sol français en juin. Une fois de plus, on a eu un retard à l'allumage extrêmement long sur la question de la vaccination. Là où il faudrait de l'empathie, de la pédagogie, du dialogue, on a eu un gouvernement qui ne s'est pas adressé aux agriculteurs, qui ne s'est pas appuyé sur les vétérinaires qui font partie souvent de la famille dans les fermes, les vétérinaires,
souvent, et on l'a entendu notamment sur les reportages ce matin sur RMC et BFM TV, ils sont dans une douleur extrême aussi aujourd'hui, parce qu'ils disent devoir poser ce geste d'euthanasier les bêtes, ne pas être compris par les éleveurs, alors que disent-ils, ils le font pour protéger les éleveurs.
Mais évidemment, parce que quand on abat des bêtes, d'ailleurs, on abat pas seulement des bêtes auxquelles ils tiennent, on abat aussi des décennies de travail familiaux, de sélection génétique. Donc c'est un drame absolu. Mais ce que je veux dire, c'est que face à une profession, qui est déjà dans la douleur et dans le désespoir, une méthode gouvernementale qui consiste finalement à être absent pendant des mois, à ne pas mettre de dialogue, à ne pas mettre, comment dire, d'information, de pédagogie, et d'un coup arriver avec les hélicoptères et les centaures de manière quand même extrêmement violente, disons-le.
Oui, mais on fait quoi? Enfin,
ça n'est pas acceptable.
Marion Maréchal, mais d'un côté, vous dites qu'il faut respecter en quelque sorte l'ordre et la loi. La décision a été prise du point de vue sanitaire. En cas de bête malade, il fallait abattre le troupeau. Soit on remet en cause cette décision-là.
Je dis que les choses,
si on doit l'appliquer, il faut bien la faire appliquer.
Je dis que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre, voilà, et avec la bonne méthode. Et c'est vrai que beaucoup de Français se disent, quand on voit aujourd'hui l'absence de l'État à faire respecter la loi face à la dézaine mafia, et quand on voit la force de frappe qui est envoyée face aux agriculteurs, qui est une profession en souffrance, oui, ça interroge et ça fait mal au cœur.
Ce que je veux dire, c'est que fort avec les faibles et faible avec les forts.
De fait, indéniablement, quand on voit très régulièrement, même dans le monde agricole, d'ailleurs, que ce soit les cambriolages, le vol de matériel agricole, le saccage des cultures avec des rodéos. Quand on voit des occupations illégales de terrains agricoles dans lesquels l'État n'intervient pas, et sur les agriculteurs eux-mêmes qui sont obligés d'intervenir avec leurs tracteurs pour faire respecter leur terrain, et qu'on voit que face à cela, là, en effet, il y a des moyens considérables qui sont mis en place. Une fois de plus, moi, je vais pas sur le fond. Je veux pas jouer au médecin. Voilà, je suis pas en mesure de vous dire oui aujourd'hui faut vacciner, faut pas vacciner, faut tuer, faut pas tuer. C'est d'une certaine manière ça, je m'en remets à la science pour le coup. Et évidemment que j'aimerais qu'il y ait des solutions alternatives qui soient moins brutales. S'il n'y en a pas, malheureusement. malheureusement, il faudra s'y résigner parce qu'il y a un vrai enjeu pour l'ensemble de la filière. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, est-ce que quand j'entends des agriculteurs témoigner et dire on a contacté le gouvernement, on n'a pas eu de réponse, est-ce que ça apparaît normal là où il faudrait justement de la pédagogie pour expliquer l'enjeu pour l'ensemble de notre filière? Et une fois de plus, une énergie d'un gouvernement qui n'est pas mis là et qui n'est pas mis non plus sur le blocage du Mercosur.
La ministre Genevard, qui sera sur place tout à l'heure, dit à l'instant qu'elle est ouverte, je cite, à la suspension si nécessaire de la procédure de lutte contre les dermatoses. Ça veut dire que donc, éventuellement, ne pas abattre, vacciner ou vacciner davantage.
Tant mieux si justement sont mises sur la table des solutions alternatives. Est-ce qu'il peut y avoir des solutions justement de confinement à minima temporaire pour endiguer le développement de cette maladie? Tant mieux, mais une fois de plus, pourquoi c'est mis si tardivement sur la table? Et j'aimerais qu'Anne-Vinnie Genevard soit aussi impliquée sur ce sujet du Mercosur.
Alors dans précisément, sur le
était très absent pendant des mois.
Sur le Mercosur, à la fois du côté de Matignon, alors qu'un sommet donc du Mercosur est annoncé pour le 20 décembre, jeudi, enfin le 20 décembre, pardon, mais avec notamment une réunion ce jeudi. Matignon dit, je cite, il est clair dans ce contexte que les conditions ne sont pas réunies pour un quelconque vote des États sur une autorisation de signature de l'accord. Et hier soir, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron a déclaré à ses homologues de l'Union européenne que, je cite, le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français. Il demande donc à la présidente de la Commission européenne un report de l'examen de l'accord.
Non, mais franchement, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron se moque des Français, quoi. Parce qu'en fait, en trois ans, on a eu quatre positions différentes. Il y a encore quelques mois, on avait le président qui a expliqué qu'il se félicitait de cet accord lorsqu'il se rendait au Brésil. Qu'a-t-il fait depuis des mois pour tenter d'obtenir une minorité de blocage avec un certain nombre de pays au Conseil européen qui eux-mêmes étaient opposés à cet accord? Je pense à la Pologne, je pense à l'Italie, je pense à l'Irlande. Rien n'a été fait. Et la semaine même de l'accord, il se réveille pour expliquer que finalement, ça n'est pas acceptable. Oui, évidemment, ça n'est pas acceptable. Je rappelle qu'on va importer, quasiment 100 000 tonnes de bœuf supplémentaires auxquelles s'ajoutent les 200 000 importations que nous avons déjà, dans un contexte où en 2025, pour la première fois depuis 50 ans, probablement notre balance commerciale agricole
va être en train de devenir déficitaire.
Nous n'avons jamais été autant dépendants des importations agricoles étrangères. Je ne vais pas m'étendre, on en a largement parlé, sur la situation de désespoir aujourd'hui réglementaire, fiscale, sociale de nos agriculteurs. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ajouter à cela la concurrence de pays qui ne respecteront pas, de fait, les normes sanitaires extrêmement dures que nous imposons à nos agriculteurs, c'est se moquer du monde. Et comme à chaque fois, c'était vrai pour le CETA avec le Canada, c'était vrai pour la Nouvelle-Zélande, on nous fait des promesses qui ne sont jamais tenues.
Est-ce que vous y croyez là? Est-ce que vous pensez en effet que le traité du Mercosur va être suspendu, que l'examen du traité va être suspendu?
Bah, écoutez, en tout cas, nous au Parlement européen, nous allons tout faire pour faire en sorte de durcir au maximum les fameuses conditions de réciprocité et de clause de sauvegarde, même si moi, pour moi, je préférais qu'il soit totalement suspendu, pour essayer de mettre dans la balance, de ces négociations, des contrôles qui soient beaucoup plus importants et qui, je l'espère, du coup, remettraient en cause la signature de l'accord. Mais je ne suis pas très optimiste, si vous voulez, parce qu'une fois de plus, Emmanuel Macron se réveille à la dernière minute et tout a été avancé depuis des années et des années.
Vous le disiez à l'instant, Marion Maréchal, vous êtes députée européenne, vous êtes aussi, je cite, présidente du parti Identité Liberté. Alors évidemment, je vous présente comme telle puisque c'est officiellement votre titre, mais ce parti, vous êtes combien?
Comment ça, vous êtes à combien d'adhérents, vous voulez dire?
Ouais, vous êtes
oui,
combien d'adhérents?
On est à peu près 10 000 adhérents. Nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale, 4 eurodéputés au Parlement européen qui siègent en effet dans un grand groupe européen parmi lesquels on retrouve les Italiens de Fratelli d'Italia et Giorgia Meloni, qui est notre allié officiel.
Quel est votre lien avec les autres partis, avec le RN, avec Reconquête, avec le parti d'Éric Ciotti? Comment vous vous situez là-dedans?
Bah, écoutez, moi, sans vous apprendre grand-chose de nouveau, je suis une fervente partisane de l'Union des droites et de la coalition des droites. Donc moi, je fais
ça
en sorte
ou pas
et je fais tout pour que ces partis travaillent ensemble, je l'espère, d'ici 2027. Au Parlement européen, c'est ce que nous faisons. Nous sommes un groupe pivot. Nous travaillons à la fois avec le centre-droit dans lequel se trouvent les LR de François-Xavier Bellamy et le groupe de Jordan Bardella. Et grâce d'ailleurs à cette situation pivot créée très régulièrement au Parlement européen,
nous constituons des contre-majorités de droite. Vous ne pensez pas juste aux 3 autres partis que je viens de citer, mais également aux LR?
Je pense pour également vous, à LR, je pense même à Nicolas Dupont-Aignan, je pense évidemment à Reconquête, je pense même
et
je
sais de plus en plus nombreux à avoir chacun.
Oui, et je sais d'ailleurs que ça parfois ça fait écarquiller les yeux, mais je pense même à une partie d'Horizon. Je pense que nous avons des choses à faire avec une partie des gens qui aujourd'hui se trouvent dans ce mouvement. Et d'ailleurs
avec Édouard Philippe lui-même, vous vous sentez parfois en accord?
Édouard Philippe, c'est un peu compliqué parce que tant qu'il continuera d'expliquer qu'il préfère voter communiste que Rassemblement National dans un deuxième tour, ça me semble pas très clair. Mais je pense par exemple à une femme comme Christelle Morançais, qui aujourd'hui est présidente des Pays de la Loire et qui a une politique, par exemple, de baisse des dépenses face aux subventions de gauche, que je trouve très intéressante. Et cette majorité, elle a eu lieu, souvenez-vous, à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines sur la suspension de l'accord de 68 avec l'Algérie.
Avec
donc
l'Algérie,
c'est possible.
Où ils ont tous effectivement voté ensemble contre cet accord. Merci Marion Maréchal d'avoir répondu à mes questions ce matin. Présidente donc du parti Identité et Liberté et députée européenne. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50. Face à Canteloup.
Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Marion Maréchal était mon invitée ce matin. Nous avons parlé de la crise qui traverse les éleveurs et Jean Castex voulait absolument réagir. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Malherbe. Bonjour à tous. Écoutez, cette épidémie touche les vaches et n'est pas sans me rappeler la crise de la Covid.
Ah oui, bien sûr.
Et je pense qu'il y a des solutions pour les vaches non contaminées. à l'époque, nous avions mis en place des solutions. Il faut savoir s'en inspirer, Madame Malherbe.
Bien sûr.
Il y a des choses qui marchent. Mmh. Il faut que les vaches saines, je le dis puissamment, solennellement, puissent remplir des formulaires d'auto-attestation de sortie pour aller gambader, brouter, dans la limite, bien sûr, du kilomètre alentour.
Bien sûr.
Voilà. Bien sûr, il faut également, oui, parce que j'entends ceux qui vont me dire que les vaches ne sont pas formées pour remplir un formulaire en bonne et due forme.
J'allais vous dire.
Non, mais madame Malin, je ne suis pas complètement déconnecté de la vie réelle. Je comprends. C'est la raison pour laquelle je propose de lancer une solution beaucoup plus pratique pour nos vaches.
Ah.
C'est d'aller sur l'application Tous Anti-Covid.
Ah, bien sûr. Voilà. C'est pour éviter quoi? La propagation de la maladie?
Non, écoutez, on ne peut pas tout demander aux agriculteurs. Mm. Il faut qu'à un moment donné, les vaches se responsabilisent.
Ah oui.
Voilà. Ce sont quand même les premières concernées. Mm. Il faut qu'elles appliquent les gestes barrières.
Bien sûr.
Pousser dans le coude. Manger son foin quand on passe à table sans dépasser une jauge de 6 bovins par étable, vous voyez. Et puis bien sûr se confectionner s'il le faut, se confectionner d'urgence des masques avec les moyens du bord en allant voir un tuto de ci de là, en se confectionnant, trouvant du tissu, je ne sais pas moi, dans des restes de slip d'agriculteurs de l'amour et dans le prêt par exemple, parce que ça en fait du tissu.
Oui, les slips d'agriculteurs. Merci Jean Castex. C'est Pascal Pro qui est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Les titres ce matin, bonjour à mon collègue Thibaut Texer, jaloux de ne pas entendre sa voix ce matin. Et les titres ce matin, c'est cette crise chez les éleveurs, on y revient avec ces abattages massifs. La ministre Annie Genevard sera ce matin sur place pour rassurer les éleveurs, mais surtout pour rassurer les gendarmes, les policiers qui encadrent ces abattages. Pas de crainte messieurs, la dermatose nodulaire ne se transmet pas aux poulets. Brigitte Macron a porté son soutien au plan d'abattage en déclarant, je cite, « On va les liquider, ces sales cornes !» Et puis ce drame sur une plage en Australie, 16 tués, vous l'avez dit, lors d'une fête juive à Nuka, et un héros, on a vu les images, qui vient désarmer l'un des assaillants, et ce héros s'appelle Ahmed El Ahmed. Voilà. Tout est dit. C'est vrai qu'on est un peu perdu. Je ne sais pas comment interpréter. Oui. Tout cela est très complexe, le monde dans lequel on vit. Ben oui, non, mais si maintenant, écoutez Apolline, si maintenant les héros commencent à porter des noms terroristes, c'est vrai que c'est confusant. Ça n'aide pas à comprendre notre société. Si encore il s'appelait juste Ahmed, mais là. Ahmed El Ahmed, voyez, il insiste, voyez. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle.
Voilà, ça, merci Pascal Fro. Allez, on reçoit Jérôme Bail, vous êtes le porte-parole des agriculteurs. C'est vous qui avez décidé de bloquer l'autoroute A64, c'est un moment difficile pour vous.
Effectivement, madame, la situation est compliquée. Sur place, je ne vous cache pas, en tant que porte-parole, c'est difficile. 15 interviews par jour. Heureusement, j'ai Josiane qui est mon attachée de presse qui gère ça au cordeau et ça se passe bien.
Cette dermatose, elle touche un monde agricole déjà en crise depuis longtemps.
Effectivement, la crise agricole remonte, on s'en souvient, à janvier 24, où j'étais à Monsieur Attal. sur la botte de paille. Mmh, ça fait maintenant 24 mois que c'est compliqué pour nous. Mmh. Moi, je dois dire, à titre personnel, 24 mois comme ça, sans caméra, sans micro, alors que je commençais à avoir ma petite notoriété, ça commençait à me manquer. Ah. C'est vrai que cette dermatose nodulaire, elle arrive à point nommé pour nous permettre de retrouver le devant de la scène. Mmh. Cette exposition médiatique, c'est vrai que ça a changé ma vie. Maintenant, c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux. Je connais Monsieur Marchand personnellement. J'ai trouvé une compagne.
Ah oui?
Oui, parce qu'il faut se rendre compte de l'évidence, madame Malherbe. Nous, dans nos exploitations, on est isolés. Il n'y a pas 36 moyens de faire des rencontres. Mmh. Soit tu t'inscris à l'amour à l'imprès, soit tu bloques une autoroute.
Ah oui. Alors, c'est quoi votre message, sinon, aujourd'hui, Jérôme Bail?
Ben, mon message, je dois dire que c'est compliqué. Parce que... moi, je parle à mon nom, mais chacun y va de sa revendication sur ses affinités politiques. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand même, sur le terrain, sur le... Il y a la FNSEA, la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne, la Congrégation des Travailleurs de la Terre, l'Association des Laboureurs de Basse Bigorre, les représentants de la coopérative céréalière, l'amicale de la filière bovine. Même moi, je m'y pompe, je sais plus le message qu'il faut passer, tu vois. Ouais, je préfère laisser la parole à José Bové, lui, il a l'expérience, il a de la parole syndicale, il a fait beaucoup de manifs. José, tu peux venir, il y a la Pauline RMC là, qui veut te dire un mot, là.
Oui, bonjour, monsieur Bové.
Oui, bonjour madame de Mer. Écoutez, moi en tant que représentant les confédérations paysannes et végé des abattages de troupeaux, nous prouvons la mobilisation, il faut adresser mon travail campagne de vaccination massive de tous les paysans déterminés pour avoir des expressions aussi longtemps qu'il faudra que je au premier de l'an.
Merci José. Encore il vous a pas dit qu'on était prêt à tenir jusqu'à Noël.
Je l'ai dit, mais j'ai été pas avec Irlande, du réveillon de Noël, le premier de l'an.
on n'avait pas réalisé. Merci messieurs, en tout cas. Et on retrouve justement Alain Marchal, qui va nous faire le sommaire des grandes gueules.
Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui dans le GG, nous parlerons bien sûr de cette épidémie chez les bovins avec nos spécialistes Bruno Poncet, cheminot, et Sandrine qui est fleuriste à Cabourg, qui va nous apporter son regard sur ces mesures vétérinaires puisque sa sœur elle-même possède un chat. On évoquera bien sûr la lutte contre le narcotrafic à Marseille avec Jean Damien, fabricant de bijoux artisanaux en Ardèche, qui est un consommateur régulier de Doliprane, en donnant bien sûr son avis sur le narcotrafic. Et puis bien sûr, on a le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major, qui nous parlera bien sûr de Lou Deleuze, 11 ans, qui a gagné l'Eurovision Junior. Le général d'armée nous parlera donc de cette victoire de la France. Et puis nous parlerons de ce terrible attentat sur une plage à Sydney avec Christiane, qui est retraitée, qui justement vient de passer son dimanche sur la plage de Biscarros. Vous l'avez compris, les meilleurs experts pour tout comprendre de l'actualité sont dans les GG.
Merci beaucoup Nicolas, face à Contelou, tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast.